Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la première émission de Star Trek pour les nuls. Avant tout...
Salut.
Bonjour, merci. Avant toute chose...
Bien.
Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait des... Ouais, bravo et tout. Mais j'ai pas de public chez moi.
Yeah. Tu l'as pas dit, hein, t'as dû le dire.
Ouais, j'aurais dû le dire dans le briefing. Avant toute chose, je tiens à remercier JP du podcast Parlons Trek pour son partage d'expérience et son aide tant dans la technique que dans la diffusion du podcast, puisque nous sommes diffusés sur les ondes de puissance maximale.
Yeah, merci.
Ça fait plaisir.
Voilà, c'est mieux là, c'est mieux, non?
Oui, merci beaucoup. Alors, Star Trek pour les nuls, c'est quoi? Je pense que vous avez certainement, très chers auditeurs, autour de vous, cette personne qui aime Star Trek, qui en parle régulièrement, peut-être vous-même aimez-vous, ça commence bien, aimez-vous la science-fiction, Star Wars, les planètes des singes, 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. Mais vous hésitez à vous lancer dans l'espace avec des hommes à oreilles pointues et des femmes toutes vertes. Ce podcast est fait pour vous. Dans Star Trek pour les lunes, nous allons traiter de la découverte de Star Trek via nombre de podcasts centrés sur certains épisodes clés ou même directement sur les films. Parce que oui, Star Trek, c'est ça. 7 séries regroupant 739 épisodes et 13 films pour le moment. Ce à quoi on peut ajouter une liste interminable de romans, de comics et une pléthore de fanfiction. Alors face à ce colosse, comment débuter? Par où? Par quoi? Eh bien, par le début. Voilà. Alors non.
Magnifique introduction.
Parfait, parfait. Merci. Je voudrais juste rajouter un truc. Vous êtes pas prêts d'avoir fini d'en bouffer du Star Trek avec nous.
Voilà. On va en bouffer par les deux oreilles.
Ça, tu pourras couper au montage.
Merci. Non, évidemment, il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est de faire le premier pas. Et rapidement, vous allez retrouver vos repères. Vous n'êtes pas obligé de faire ce voyage tout seul puisque nous sommes là. C'est pourquoi nous avons réussi à réunir une équipe de jeunes cadets dont la mission sera de découvrir Star Trek au mépris des difficultés. Je vous présente donc les cadets suivants. Charles.
Ouais, salut à tous.
Bravo.
Renaud.
Salut, bonjour, bonsoir à tous.
Voilà, ça c'est les cadets. Et pour m'accompagner, à aider à structurer ce podcast, JP de Parlons Trek.
Et bonjour.
Bonjour JP. Et pour ma part, je suis Régis. Et
salut.
Vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. J'ai beaucoup trop lu. La prochaine fois, il faudra pas que je fasse ça. Allez, après cette introduction bien trop longue, rentrons dans le vif du sujet. Pour cet épisode pilote, nous avons demandé à nos cadets de regarder tous les premiers épisodes, donc les épisodes pilotes, de chacune des séries. Donc aussi, au total, 6 épisodes, dont 5 sont des doubles épisodes. C'est très courageux, ils ont braffé la difficulté. Charles, c'est toi qui commences en nous présentant cet épisode de 1966 de Star Trek, la série originale.
What? C'est moi qui commence, ça, c'était pas prévu, ça. Bon, alors, on va commencer, du coup, donc, le Star Trek original, avec la première apparition, du coup, de l'USS Enterprise, si je dis pas de bêtises. Donc, l'épisode, en France, a été nommé « Où l'homme dépasse l'homme », et en anglais « Where no man has gone before ». Cet épisode, moi, personnellement, pour partir sur un premier ressenti, j'ai eu l'impression de retomber en enfance parce que j'étais un grand fan des Turner Birds. Donc, je sais pas si vous connaissez les gars.
Les Sentinelles de l'air, je pense.
Voilà, les Sentinelles de l'air, oui. Voilà. Et j'avais l'impression de revoir un épisode des Sentinelles de l'air. Moi, j'avais adoré. Alors, du coup, dans cet épisode qui a un peu vieilli quand même, du coup, c'est Gary Mitchell qui va acquérir des pouvoirs à la suite d'une tempête magnétique. Et en gros, il se prend pour Dieu. Pour résumer un petit peu l'épisode. Et du coup, le capitaine Kirk et Spock vont devoir l'affronter et le mettre hors d'état de nuire. Je pense que le résumé est plutôt pas mal.
Parfait. Ouais.
Très bien. Qu'est-ce que vous en avez passé, les cadets?
Vas-y, Absol, je te laisse commencer.
Ah bon.
Continuez
bah, voilà.
surtout.
Bah moi j'avais déjà un petit peu commencé, donc voilà, moi c'était par rapport aux Sentinelles de l'air, c'est vrai que ça m'a fait retourner en enfance, même si ça a un peu vieilli, je trouve que ça a son charme. Alors j'ai regardé aussi les deux autres épisodes Charlie et ils étaient des mignons, voilà, qui étaient un petit peu aussi en même temps diffusés en même temps, c'est ça? Tu peux non, remettre alors, un petit peu pour les auditeurs bien comme il faut.
Si, alors il y a eu un cafouillage dans la diffusion, je sais pas pourquoi. Le premier épisode diffusé, si je ne me trompe pas, c'était.
C'était le.
Ils étaient des millions.
Le vampire de sel.
Ouais, ils étaient des millions en anglais. C'était ça y est, j'ai perdu le nom. The Man Trap.
Oui.
Oui, exactement, oui.
Suivi de Charlie X, alors que l'épisode pilote était Where No Man Has Gone Before. Mais pour la petite histoire,
en fait,
on
peut même mettre un petit addendum là-dessus, en fait. Where No Man Has Gone Before est le deuxième pilote, puisque il y a un pilote rejeté qui était The Cage, qui exact. Par la suite était remanié dans un épisode en deux parties. Et ensuite, en 1983, The Cage a été lancé sur vidéocassette dans son intégrité. Dans son intégralité, pardon. Donc, petit addendum terminé.
Oui, c'est parfait. C'est exactement... Je l'ai jamais vu, d'ailleurs, celui-là, en intégralité réelle.
Enfin, tu peux le trouver sur... Il est dans la liste de Netflix.
C'est vrai?
Si, ouais.
J'ai vu que la version de... La romanie avec Spock qui
de ménagerie ouais. Mais non ce que sur Netflix au Canada l'épisode The Cage est disponible, mais je pense que c'est comme à la fin de la saison, ils l'ont mis à la fin de la saison, je pense, si je me rappelle bien.
Je regarderai. Et toi Renaud, t'en as pensé quoi?
Alors très très variés les ressentiments de l'épisode. Il y a des plus, il y a des moins. Ce que j'ai beaucoup apprécié et je m'y attendais pas forcément, c'est que pour cet épisode pilote, on verra ça peut-être avec les autres épisodes, mais surtout de ces premières saisons, c'est les thématiques abordées. J'ai trouvé ça en fait assez bien fait. Donc, tu vois, au niveau des analyses ou ce qui était présenté, c'est présenté de manière simple, c'est assez intelligent. Il n'y a pas de choses un peu clichés, tu sais, les explications sont claires en fait, précises. Et aussi en fait quelque chose d'assez dramatique, parce que le fait en fait de, tu sais, que tu t'intéresses à cet équipage qui est super bien montré en fait, tu sais, dès le début ils échangent 2-3 dialogues, Spock et Kirk, tu sais, ils jouent aux échecs, cette partie d'échecs en 3 dimensions, un peu 4 dimensions, et en 2-3 dialogues il y a des petits tacles qui se font entre eux, enfin t'es directement lié à cet équipage en fait, et le fait de mettre que ce soit le méchant en fait un des personnages de cet équipage, il y a quelque chose de très dramatique en fait, tu vois, dans le fait de se demander comment on va pouvoir gérer ça. On a Kirk qui veut essayer d'éviter de le tuer, et on a le côté Spock, tu sais, très très terre à terre, qui sait qu'il va falloir les terminer de manière un peu logique, voilà, avec lui. Et t'as l'impression, tu vois, que c'est ce petit Spock, tu sais, un petit ange, tu sais, le côté une partie de l'âme de Kirk, tu sais, qui lui parle à l'oreille. Et lui qui se refuse à ce choix, qui est beaucoup plus humain, tu vois, et qui se dit, il va y avoir une solution. Ça, tu vois, dans l'idée, ça m'a beaucoup plu. Même le physique, les méchants, avec ses yeux blancs un peu, ça m'a fait penser, je sais pas, vous connaissez le roman Les Coucous de Midwich, qui a été adapté en film Le Village des Damnés, avec des enfants qui ont des pouvoirs psychiques un peu, c'est exactement le même style.
Quoi, les coucouilles de qui?
Alors ça, t'as dû aller chercher ça sur internet.
Non, pas du tout.
Ouais, d'ailleurs, de Midwich.
L'acteur qui joue machin a dû souffrir des yeux, parce que c'était horrible. Je sais pas si vous avez vu les zooms qu'on a sur ses yeux. Il a les yeux explosés.
Tout à fait.
Les verres de contact en effet n'étaient vraiment pas confortables pour les acteurs.
C'est ça le côté peut-être négatif, tu vois, que je donne dans les tout ce qui est les couleurs, peinture des couloirs, tu sais, tout ce qui est design et décor, c'est très très simple.
On voit que ça a vieilli et que c'est plus les mêmes budgets qu'aujourd'hui, quoi.
Voilà.
Et alors pour la décoration, ouais. C'est vrai que pour la décoration.
On va dire la même chose.
Non, c'est vrai que pour la décoration, mais de toute façon, ils avaient très peu de budget, donc ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et dans l'imaginaire à cette époque-là, la science-fiction était très colorée. Mais par contre, je trouve quand même que les effets spéciaux ont été super bien faits. Quand ils lancent des éclairs dans tous les sens, je trouvais ça vraiment très bien. J'avais pas l'impression d'avoir du rajout manuel sur la bande, alors que c'était probablement ça. Après, c'est la version...
Si tu me permets, t'as probablement vu la version remasterisée de 2007 et 2008.
Oui, je m'en suis rappelé en le disant, ouais, parce que même mes DVD, c'est ce que j'ai. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas comment c'était visuellement.
Après, que comme tu disais, au niveau du tournage, c'est vrai que même dans tout ce qui est costume et maquillage, voilà le tournage. Apparemment, ils ont eu de gros soucis, non ? J'ai entendu Gap là. Enfin, c'est et puis même au niveau des costumes ou des décors, c'était. C'était juste pour l'épisode pilote, non? Ils étaient même pas sûrs de continuer après avec ça, c'est
ouais.
ça?
Ouais, en fait, c'est ça la nature d'un épisode pilote. C'est que c'est la maison de production et non pas le studio qui produit l'épisode à ses propres frais et en espérant de vendre l'épisode à une chaîne de diffusion. Donc, dans ce cas-ci, c'était Desilu qui était la maison de production, qui était la maison de production de Lucille Ball, qu'on connaît pour la série I Love Lucy, et qui, justement, qui ont réussi à vendre ce deuxième pilote à la NBC, qui, c'était, pour la première fois, c'était très, 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 très rare d'avoir la chance de produire un second épisode pilote, malgré le fait que c'était à leurs frais. Donc, c'est vraiment Lucille Ball qui a insisté pour, justement, refaire ce deuxième épisode-là. Malheureusement, ça l'a mis en ruine, ce qui a par la suite mené à la vente de Desilu à Paramount. Mais ça, c'est une autre histoire.
C'est quand même ouf. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez remarqué, par exemple, dans les doublures lors des bagarres?
Va-t-on parler des bagarres?
C'était génial.
Voilà. Ouais.
Après,
je crois qu'on voit la naissance du Kirk, ce qu'on appelle le double fist Kirk dans le dos là quand il tape les... on s'entend, c'est une prise légendaire dans Star Trek. Je pense que y a rien qui équivaut à un coup de poing dans le dos de la part de William Shatner là.
C'est génial.
On va le voir. On va continuer à avoir des bagarres de même au travers de la série, de façon plus spectaculaire, je crois, dans le combat contre le Gorn. Je pense,
le combat contre le Gorn est magnifique. Ouais. Celui contre Khan aussi est pas mal. Mais c'est pas Kirk, c'est un autre qui se bat contre Khan, non?
Non, c'est Kirk.
C'est Kirk. Il était pas mal dans mes souvenirs. Il faudra que je le revoie. j'avais noté, enfin, pour ma part, tu me diras, JP, ce que t'en penses. J'ai trouvé que cet épisode résume bien ce que sera le reste de la série. C'est-à-dire, on a vraiment des questions classiques de Star Trek, enfin, qui deviendront classiques. La problématique de tuer un homme si le bien général le requiert. Et j'ai trouvé ça chouette. Et pareil, une petite phrase de... un peu philosophique lorsque Kirk dit le pouvoir absolu corrompt absolument.
Ouais.
C'est quelque chose de beau et de très très bien selon moi.
Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que faut dire aussi que la production s'était fait dire de faire quelque chose de moins intellectuel. Donc je pense que ils ont rejeté un petit peu de bagarre, mais ils ont réussi à garder ce qu'ils voulaient là au cœur de la série là. Donc ils ont réussi à faire quelque chose avec un petit peu plus d'action, mais en gardant l'idée centrale là.
Par contre, je trouve qu'ils commencent vraiment fort avec ce premier épisode, parce qu'on a quand même ils combattent quand même un semi-dieu quoi, en fait, au niveau des pouvoirs.
Ouais.
Et tout, ça commence vraiment très très fort
hein. Ouais, et c'est pas le seul. Ah, c'est le premier d'une longue collection de semi-dieux aussi qui vont affronter.
Ça, on se doute un peu. Quand ça commence à l'épisode pilote comme ça.
Ah, c'est bon, moi j'ai plus rien à dire.
Ouais, si, moi j'ai encore une touche à apporter. On trouve également un premier pas dans quelque chose qu'on trouvera plus ou moins sous-jacent dans toutes les séries Star Trek, mais l'égalité homme-femme. Je sais pas si vous vous souvenez, le premier échange entre le docteur Dehner et le commandeur Mitchell, celui qui deviendra le demi-dieu. Elle se fait traiter comme une moins que rien, et elle l'envoie bouler, mais proprement, et j'ai trouvé ça très beau pour un truc de 66. Ouais. Après, bon, voilà,
Mais ça se retrouve dans quasiment toutes les séries, hein, de vraiment cette égalité homme-femme, même entre les races et tout. On le retrouve, on en parlera après, mais c'est vraiment un point central de l'univers Star Trek, de ce que j'en ai vu. Hein.
Après, c'est marrant qu'on en parle parce que justement le premier échange qu'il y a, c'est comme une sorte de drague, tu vois, un peu bof. Justement, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ah tiens, la femme, ouais, se laisse pas faire, mais on tombe sur un personnage quand même qui est là à lancer, ouais, une drague un peu, un peu moyenne. Ouais. Tu te dis un peu cliché. Alors que là, et on en parlera si plus tard, c'est vrai que dans les autres saisons, t'as pas du tout ça, en fait, et on remarque que justement, t'as les personnages de lieutenant, commandant, enfin, des postes assez importants, t'as les femmes, et tu te rends même pas compte, en fait, tu te dis même pas, ah tiens, ils ont mis une femme, c'est une bonne chose qu'ils aient mis une femme à ce poste important, ça paraît tout à fait naturel, et t'as même pas, en fait, de cette idée de cliché avec peut-être une femme forte, et qui fait très masculin, ou au contraire, une femme attirante, haut placée, qui pourrait être un fantasme et tout ça. Mais là, je l'ai moins constaté dans ce premier pilote, tu vois, de la première saison. Alors après, dans les autres épisodes, on n'a pas vu, mais enfin, en tout cas pour moi, je sais pas si ça change après ou si c'est constaté dans les autres saisons.
Je pense que ce que tu mentionnes, c'est surtout que c'est victime de son époque. Début des années, on parle ici de, ça a été produit là en 1966. Le mouvement féministe était à sa naissance. Là. Fait que déjà d'avoir une femme sur la passerelle, c'est faut dire aussi. Encore, je vais revenir à The Cage encore un petit peu.
Oui.
Dans The Cage, la commandant second était une femme.
Ouais.
Ça a absolument choqué les gens de NBC. Ils se sont fait spécifiquement dire c'est un petit peu trop de la science-fiction. Ils ont été un petit peu forcés là d'enlever ce personnage-là et de mettre. Ben, Spock était déjà dans The Cage, mais Spock a pris le rôle de commandant en second en plus d'officier scientifique dans ça. Donc comme je dis, c'est surtout victime de son temps. Quand tu parles de drague aussi, je pense que c'est un peu l'époque Mad Men là, qu'on a vu dans. Donc, je pense que faut remettre certaines choses dans son contexte historique.
Tout à fait. T'as bien raison.
Ouais. Autre chose, c'est vrai qu'on dure longtemps sur cet épisode, mais bon, c'est le premier pilote de Star Trek, donc c'est pas trop grave. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'acteur qui joue Lee, le pilote, celui qui meurt. Et à chaque fois que je vois cet épisode, je me dis, mais c'est tellement dommage de l'avoir tué. Mais quelque part, bah, vu que vous avez vu tous les pilotes, est-ce que il ne vous rappelle pas un personnage qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans la série Enterprise? Chris Tucker. Ou est-ce que je suis le seul à qui ça a fait cet effet? Ok.
Non.
Je les ai vus avec trop de décalage, j'aurais fallu que je les voie de suite après.
Ouais, non, mais c'est bon
petit,
après.
Il y a un petit air, ouais, peut-être.
C'est,
en effet.
Voilà, je sais pas, j'ai trouvé un truc dans ces deux personnages, déjà physiquement ils se ressemblent, mais dans la manière d'être, un peu décontracté, je sais pas, enfin
c'est
bref, Lee m'a beaucoup plu. Pour ma part, ce sera le dernier point à aborder, mais ce sera plus vers JP que je vais me tourner. Est-ce que tu as remarqué sur la tombe de Kirk à la fin,
oui.
Il n'y a pas marqué James T. Kirk, il y a marqué James R. Kirk.
R. Kirk,
est-ce
en
que
effet,
tu as une explication?
Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est un vestige de production des années 60, tout ce que on faisait les épisodes au fur et à mesure, et on y avait pas de grande bible de pour ceux qui faisaient l'écriture. Donc il y a beaucoup il va y avoir pour nos cadets là, il va y avoir beaucoup d'inconsistances.
Ouais.
C'est normal, c'est l'époque. Et surtout que Gene Roddenberry était quelqu'un qui était un petit peu révisionniste de sa propre de ses propres écrits ou de ses productions. Donc il a jamais hésité à aux grandes dames de plusieurs trekkies, là. Donc il a jamais hésité à ignorer certains trucs de l'épisode pour
ouais. Et ça, je l'avais remarqué 2-3 fois, mais là c'est la première fois en fait que je le vois. Ça m'a surpris en fait. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur Where No Man Has Gone Before?
Je tenais à mentionner l'acteur qui joue Gary Mitchell, nommé Gary Lockwood. Oui. Est-ce que vous l'auriez vu dans un certain autre film de science-fiction légendaire?
Oui. Mm-hmm. Mais je ne sais pas s'ils l'ont vu, les gars.
Non.
2001, Odyssée de l'espace.
Oh.
Et oui.
Ah, j'ai pas fait attention.
Papa. Oui, en effet.
On a une méga star dans Star Trek. Enfin, ce sera plus tard, mais...
en effet, il jouait le docteur Frank Poole à bord du Discovery.
Et,
et donc, si je me rappelle bien, donc Frank Poole est celui qui meurt d'une façon totalement glauque en se faisant couper son air par Hal.
Mm-hmm.
Oui.
Donc, je pense que c'était probablement dans les mêmes, parce que 66, fait qu'il est passé de Star Trek à 2001 ou de 2001 à Star. Je pense qu'il est passé de 2001 à Star Trek. Parce que 2001 a pris énormément de temps à filmer. Les deux productions étaient, dans les mêmes.
Je fais la petite recherche vite fait. Ouais, il est sorti en 68, donc ça devait être la préparation plus ou moins en même temps. Mais... Mm-hmm. Ouais. Et en parlant de Docteur, d'ailleurs, McCoy n'est pas présent encore.
Donc, en effet, on n'a pas McCoy, ni Uhura, ni Sulu.
Sulu y est. Donc. Mais il est pas,
ouais, c'est vrai, celui,
il est pas dans son, dans son rôle normal.
Je crois qu'il est genre comme officier scientifique ou quelque chose, là, on le voit dans une très bizarre. Bleue,
ouais. Bien. Allez, on avance en 1987, et cette fois c'est Rennes, c'est le chevalier Renaud qui va nous présenter, qui va nous présenter l'épisode pilote de TNG.
Transition magnifique, merci. Alors, pas du tout. Alors, Next Generation, premier épisode en 2 parties, rendez-vous à Farpoint ou Encounter at Farpoint. On restera donc sur le titre en français pour moi, vu mon accent.
T'as vu
l'histoire. L'histoire, on suit Jean-Luc Picard, donc Charles Xavier pour ceux à qui ça ne parle pas juste le nom. Donc il prend le commandement en fait de l'Enterprise pour une première mission, c'est se rendre justement sur cette planète à Farpoint pour récupérer en fait une personne de son équipage, une partie de son équipage, notamment en fait le commandant Riker. Et en fait durant ce trajet, il va y avoir une sorte d'énorme barrage qui va faire penser à celui un peu des Gardiens de la Galaxie, qu'on peut voir Gardiens de la Galaxie 1 à la fin, peu comme tous les vaisseaux qui se collent entre eux.
Après, j'avais pas du tout fait le parallèle, ouais.
Ouais. Je sais pas si c'est une référence particulière.
Je pense pas. Peut-être.
Voilà. Et en fait, cet énorme barrage qui va bloquer le vaisseau, et il y a un étrange personnage, Q, qui va accoster l'Enterprise, et va leur faire une sorte de procès, en fait, en accusant l'équipage de tous les crimes odieux qu'aura réalisé l'humanité. Donc c'est en les traitant d'être une race barbare, en fait, sans avenir. Et donc Picard et son équipage, en fait, ils vont devoir se défendre face à lui, sinon ce sera la fin de l'humanité.
Bon, 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 bon.
Voilà. Épisode très intéressant pour moi. J'ai vu en me renseignant que le film était prévu en 2 parties. Et c'est justement en fait un des points faibles que je reprochais au film, c'est qu'en fait tu sens qu'en fait ils ont voulu lier au final les 2 intrigues. Donc une intrigue qui va se passer sur la planète à Farpoint et cette histoire avec Q. Tu sens qu'en fait il se force un peu à les lier à la fin, ce qui est un épisode pilote, alors que, à mon avis, ça aurait été super intéressant de se focaliser peut-être sur l'intrigue avec Hugh, parce que ben, on parle justement de cette évolution, en fait, de notamment des humains, donc de l'évolution des humains, et le fait ben, de ce qui a évolué, comme ça on en apprend aussi sur cette époque-là hein, de Star Trek. Mm-hmm. Et ça aurait en plus développé beaucoup plus les personnages, parce que par rapport justement aux défenses qu'ils utilisent, tu sens qu'il y a certains personnages, ils pensent à leur passé, des choses en fait qui ont été difficiles pour eux, douloureux, et le pourquoi en fait il est bon de garder en fait cette humanité en vie.
Ouais, moi j'ai beaucoup de difficultés avec cet épisode. Quand j'ai eu fini la série originale, j'ai acheté directement le coffret de la série complète de Star Trek Next Generation. Et quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, mais dans quoi je me lance? Et j'ai coupé, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de perdre 90€ pour rien, quoi. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cet épisode. Pour moi, il représente vraiment cette mauvaise période des années 80. C'est très kitsch. Les acteurs jouent super. Il y a du surjeu, en fait. C'est pas qu'ils jouent mal, c'est qu'ils sont en surjeu.
Tout à fait.
Et je trouve que même techniquement, là, les effets spéciaux, pour le coup, je trouve qu'ils ont vieilli. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as passé, Charles? Ah, pardon.
Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que t'as l'impression que ça se barre en couille, en fait. Justement, au niveau du tribunal, du système de tribunal, là, qu'ils ont mis, c'est vrai que c'est particulier. Voilà. T'as des effets, de zoom et tout ça qui font vraiment très vidéo. Après, j'ai beaucoup aimé, moi, c'est les thèmes abordés, par contre, de l'épisode. C'est le thème de l'humanité, et tout ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mm-hmm.
Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser le micro-ondes. Il y a par contre un gros point positif. Qui c'est qui fait à manger, bordel?
Attends, je reviens.
C'est pas chez moi. C'est un couac, sinon c'était pas drôle.
Non, mais pour revenir, soyons sérieux. Il y a un point positif là-dessus, c'est que la tension est extrêmement palpable. J'ai trouvé que pour un premier épisode, c'est très sombre. C'est pas du tout fun, joyeux. Enfin, ouais. Ça marque vraiment direct le but recherché. Je pense qu'à cette époque-là, ils ont voulu faire une approche plus mature. Cibler un public
ça
plus mature.
Ouais.
Voilà. Après, j'ai quand même trouvé une lenteur générale. J'ai pas compris pourquoi on a fait séparer le vaisseau en deux. Si c'est pour le faire se rejoindre aussitôt, c'était juste pour montrer, voilà, on est capable. Vous avez vu, on sépare notre vaisseau en deux. Mais
si je peux m'interjecter,
au contraire, c'est, vas-y.
C'est probable. Bah, je peux te dire probablement que la scène où ce que Picard va à la salle des machines. C'était simplement parce que s'il n'avait pas cette scène-là, il n'aurait pas construit la salle des machines et le budget pour construire la salle des machines par la suite aurait passé sur l'épisode d'après.
D'accord.
Ce qu'ils auraient ruiné, donc.
D'accord. Qui était un très mauvais épisode également. Mais on y viendra plus tard.
Donc, même chose probablement pour la séparation du vaisseau. Ils ont fait l'effet visuel avec le modèle. Donc, une fois qu'ils ont ça, ils peuvent le réutiliser dans les épisodes par la suite.
Après. Oui. Ok, c'est bon à savoir. Oui, parce que l'image de la séparation du vaisseau est toujours la même à chaque fois qu'ils le font. Même s'ils le font trois fois, quatre fois, peut-être un grand max. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a particulièrement marqué dans tout ce...
L'androïde.
Là, on a vraiment du
mal. Ah, l'androïde, oui.
Voilà, Data. J'ai hésité à appeler mon chien Data.
Il est super intéressant, parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas l'habitude peut-être de voir avec des androïdes, là, c'est que il a ainsi que la volonté, il a la volonté d'être humain et sans cette vision en fait de les surpasser, il a conscience en fait de ses connaissances supérieures, mais il y a aucun moment, ce côté, il va être dangereux.
Ah, on l'a perdu.
Il y a une fuite.
Oui, j'ai un problème avec mon casque.
Personnellement, c'est sûr que Data est pas mal le personnage un des personnages les mieux développés dans la série. Personnellement, je suis faible pour Tasha Yar. Je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée pourquoi. Malheureusement, ça a été ma préférée. Vous allez savoir pourquoi dans l'épisode futur, pourquoi je dis malheureusement.
Suite à un problème technique, nous avons dû recommencer l'enregistrement. On reprend là où on en était. JP, c'est à toi.
J'allais mentionner à quel point la vision utopique a vraiment été comme mis très On coupe. Et donc, je voulais mentionner à quel point la vision utopique de Gene Roddenberry a vraiment été implémentée de façon très peu subtile quand on compare la série originale. Donc, quand on voit Capitaine Picard mentionner que l'humanité est meilleure et que on fait pas de choses méchantes, tout ça, l'argent. Je sais pas s'il mentionne l'absence d'argent, mais alors que quand on regarde la série d'avant, Kirk, des fois, disons qu'il ne montre pas nécessairement les meilleurs aspects de l'humanité, oui. Surtout quand il fait sa drague intense sur chaque minette.
Absolument, toutes les femmes de l'espace, Kirk les a baisées.
Mais non, c'est ça, je tenais à mentionner à quel point, disons que Gene Roddenberry a été recruté par Paramount pour faire Next Generation, et un peu en conséquence de ça, soit par ego ou par sénilité, là, il s'est vraiment mis à implémenter de façon beaucoup plus accrue là, toutes ces idées là de utopique là, par rapport à l'univers de Star Trek. Là.
Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a au contraire le moins inspiré?
Ben moi j'en attendais beaucoup de Picard en fait, parce que déjà bon par rapport à l'acteur qui interprète, mais comme tu disais dans les thématiques du personnage et tout ça, enfin Picard, enfin tu le vois genre le personnage, c'est ça à un moment, mais t'as juste le garçon Will qui vient dans la pièce principale d'où il pilote tout cela, et je sais pas, son personnage, j'ai l'impression il est là, je suis en terre car je ne sais pas comment réagir en tant que père, et tu sais, ça fait très simple en fait, peu profond, ça fait très personnage mais cliché en fait, j'en attendais beaucoup plus, mais après c'était par rapport à mes attentes et à ce que je pensais quoi. C'est pas pour l'époque. Est-ce que ce personnage devait avoir autant d'importance? Je ne sais pas. Moi, c'est par rapport au vécu que j'ai, au film que j'ai avec cet acteur, que j'en attendais un peu plus.
Ben, Picard, tu as 7 saisons devant toi et 4 ou 5 films qui vont le développer. Mais après, tu vas voir, ça va devenir un personnage vraiment très très profond avec beaucoup de nuances. Très intéressant, ouais. Mais c'est vrai que pour un premier épisode, il peut sembler un peu bizarre, surtout que ça fait un peu forcé aussi ce côté j'ai du mal avec les enfants, on sait pas d'où ça sort. Et, ouais. Et toi, Charles, il y a un personnage qui t'a fait cette impression de...
Non, il n'y a pas forcément de personnage qui m'a rebuté dans cette série, non.
Et même pas... Ah, j'ai perdu son nom. L'empathe.
Diana Troy.
Oui, Diana Troy. Elle vous a pas semblé un peu bizarre?
Non, j'ai pas fait assez attention, alors.
Bon, il y a que moi, alors. Ok. Non.
Désolé.
Après, ce qui, par contre, ce qu'on peut souligner, enfin, je sais pas si c'était juste moi, mais vraiment le visuel du personnage de Q avec ce trône qui on a l'impression, en fait, que c'est une partie de lui, comme ça, qui a l'air de flotter, se mouvoir et tout ça. Et même dans l'idée des décors qui reprend en fait les différentes dictatures hein, qu'il a pu avoir par rapport aux humains et tout ça, aux terriens. Moi, je trouvais, je sais pas si c'est pour l'époque et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait avec lui aussi le déguisement, le costume du personnage un peu style chevalier, enfin une époque pas forcément contemporaine. C'était un bon mélange, je trouve. C'était assez intéressant au niveau du design et puis de l'ambiance.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Puis ce côté un peu omnipotent, bouffon qu'a Q est pas mal aussi, je trouve.
Ouais. C'est un personnage qu'on voit plus tard après, hein, c'est vu qu'il n'a pas l'air de partir.
Oui, très régulièrement, on le retrouve dans presque toutes les autres séries. Pas dans Enterprise, mais on le retrouve de temps en temps, ouais.
D'accord.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce Encounter at Farpoint?
Bah, j'aimerais bien.
Oui, on t'écoute.
Non, mais j'aimerais bien avoir quelque chose à dire parce que j'ai passé à la suivante.
Alors, les cadets, faites très attention à ce que vous allez dire, car nous allons nous retrouver maintenant en 93 avec la meilleure série Star Trek. C'est mon opinion, c'est donc la seule qui compte. Deep Space Nine, Charles, c'est à toi.
J'ai détesté.
Je t'annonce officiellement ton renvoi du podcast.
Voilà, au revoir.
Non, mais c'est aussi un de ceux que j'ai le moins apprécié, tu vois.
Pilote, il est horrible. Alors, j'espère que la série va être mieux, hein, mais l'épisode pilote, je me suis ennuyé devant. J'ai fait un premier visionnage, je me suis assoupi au bout d'une demi-heure. Je me suis forcé à faire le deuxième visionnage jusqu'au bout. Mais je me suis forcé vraiment. C'était vraiment l'épisode, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais les enjeux trop mal expliqués. Alors, pour résumer un peu l'épisode, donc c'est Cisco, qui a perdu sa femme à la suite d'une attaque. Et 3 ans plus tard, il prend le contrôle d'une station qui vient de se faire attaquer. La fameuse station Dead Space Nine. Du coup, par la suite, il va découvrir des vortex qui vont permettre de rencontrer une nouvelle civilisation. Voilà, en gros, pour le résumé de l'épisode. Mais c'est vrai que... Non, je me suis ennuyé devant, quoi. Les personnages, ils s'étaient trouvés creux, sans intérêt. J'ai pas aimé. Désolé.
Ok.
Je fuis.
C'est ton avis.
Non, après, je vois vraiment ce que peut donner la série par la suite avec ce changement, en fait. On n'est plus dans un vaisseau, mais plus dans une station avec la vie de la station et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Mais je trouve que cet épisode pilote ne donne pas du tout envie de connaître la suite.
Ok, c'est voilà. Ton avis et je ne le respecte pas. Renaud, tu en as pensé quoi?
Ah, ben Absol, vu que tu t'enfuis proche de toi, très très proche. Ça a été aussi très compliqué pour moi cet épisode. Bon, déjà, c'est une première pour un épisode pilote par rapport aux deux épisodes précédents. En fait, on arrive sur un épisode qui va conclure l'épisode final de la saison précédente. On arrive, on a Picard, on sait pas pourquoi. Il est en mode androïde. On voit donc qu'il a un lien avec la mort de la femme de Cisco. Et on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est foutu là? On n'a pas trop d'explications. Et même, on arrive au milieu de l'épisode, il n'y a pas d'avancement concrète sur la synopsie, en fait, sur l'avancée de l'intrigue. Et c'est moche, quoi, c'est moche. Dans la réalisation, les couleurs, la déco, ça veut paraître années 70, mais c'est très kitsch, quoi. Ça fait, au contraire, on voit qu'on est dans les années 90, il n'y a rien de futuriste. On a un personnage, à un moment, qui se transforme en liquide, en mode Terminator 2, mais Terminator 2... avec le budget d'un film indien, quoi. Enfin, c'est assez particulier. Et là encore, par contre, là où je tiens à souligner, c'est intéressant, c'est que les épisodes pilotes précédents, c'est dans les thématiques, en fait, que ça se rattrape. On a quelque chose qui est vraiment intéressant quand Cisco est dans le vortex, en fait, et qu'il parle avec cette entité. Il y a toujours une idée, en fait, de nous, en tant que personnages, enfin, en tant que spectateurs, et de suivre en fait le personnage, de se dire qu'en fait l'univers est et qu'en fait on est très petit par rapport à ça, qu'il y a des pouvoirs qui nous dépassent, et en fait ça nous ramène à une humilité en fait, et ça j'ai trouvé super intéressant, c'est ça que j'apprécie. Et voilà, et se dire quand même nous ne sommes rien, mais on mérite quand même de vivre et d'expliquer pourquoi on mérite de vivre, et aussi l'entité, la manière dont elle essaie en fait de dialoguer avec nous, qu'elle utilise justement mais des souvenirs de notre mémoire, des mots qui lui sont inconnus, mais essayer d'avoir des explications par les images, ça c'est ce qui m'a plu. Mais disons que voilà, les thématiques sont intéressantes, du rythme, de la réelle, faut s'accrocher quoi.
Oui, c'est un produit très années 90, quoi.
Je peux dire aussi que c'est probablement la... Va chier. non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on doit à cette série-là, si on doit une chose à cette série-là, c'est vraiment la télé qu'on a aujourd'hui, cette télé qui est sérialisée, où ce que justement on prend la peine de construire à l'avance les personnages pour les développer par la suite. Deep Space Nine était un pionnier là-dedans, accompagné de Babylon 5. Et ça, c'est un autre débat pour un autre jour. C'est sûr qu'à cette époque-là, donc Deep Space Nine, il commençait à peine la télé sérialisée, et même au niveau de la production, ils ne voulaient pas, mais ils ont été forcés par la suite, parce que en fait, je raconterai rapidement, il y a Star Trek Voyager qui a commencé par la suite, donc les yeux des producteurs se sont tournés vers Voyager, donc ceux qui faisaient la série Deep Space Nine ont été un peu plus libres de faire ce qu'ils voulaient, donc ils ont pris des libertés qui ont mené. D'ailleurs à la série Battlestar Galactica, parce que Ronald D. Moore a fait ses dents sur Star Trek Next Generation, a été producteur à partir de la saison 3 ou 4 sur Deep Space Nine quand Next Generation a fini, et c'est vraiment ce moment-là, à partir de la saison 3 ou 4, que ça devient très sérialisé, où ce qu'on voit un développement des personnages beaucoup plus intense. Donc, si vous aimez Battlestar Galactica, vous devez au moins un remerciement à Deep Space Nine pour la naissance de ce qu'on appelle la télé de prestige de nos jours.
Alors, je le remercie, mais pas pour l'épisode pilote. Hein.
Non, en effet, parce qu'il était pas sur la production de l'épisode pilote à cette époque.
Donc c'est bon. Donc je peux dire que l'épisode pilote, c'était de la merde. Merci.
Et toi, Sinoc, c'est quoi alors qui t'a le plus plu en fait de cet épisode? Ouais. Je tiens à le savoir, car.
Alors pour ma part, déjà à la base, le thème musical, je vais être enterré sur cette musique.
Ok.
L'histoire.
Podcast, je trouve.
Comment?
Il est gay ce podcast, je trouve.
Oui. Là...
C'est pour ça.
Non, après, je sais pas, j'accroche énormément. L'histoire, moi, à l'inverse, me parle, me penche. Bon, après, je suis jeune papa, donc peut-être que je me projette dans Cisco et dans sa relation avec son fils. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de beau. Et puis quand Cisco se retrouve avec ses entités là dans le vortex et qu'il doit leur expliquer ce qu'est le temps. J'ai trouvé là une image magnifique. En fait, je me suis rendu compte avec Deep Space Nine que si la série originale et Next Generation présentaient des explorateurs, Deep Space Nine, on suit des personnes qui cherchent à définir ce qu'est l'exploration. Et c'est une série métaphysique, et moi, ça me parle. Et après, lors de mon premier visionnage, j'ai pas apprécié non plus, parce que j'ai regardé dans l'ordre toutes les séries. Du coup, voilà, je venais de me taper cette saison de TNG plus les films. Et pareil, comme tu disais, Charles, au début, j'étais là, mais les personnages sont pas du tout emblématiques. Ils ont pas ce côté hyper charismatique qu'ont les autres séries.
Oui.
Mais il y a quand même un côté méta qui me parle énormément.
Ok.
Okay. Le premier contact avec les Borg, pour vous, il me semble. Qu'est-ce que ça vous a intrigué, ce côté Jean-Luc Picard? Qu'est-ce qu'il fait à moitié robot là?
Bah, c'est vrai qu'on comprend pas comment il en est arrivé là, quoi. Il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à ça. Après, je pense que en fait, la série a vraiment été faite pour être suivie, pour suivre vraiment New Generation, pas pour être démarré comme ça.
New Generation.
Oui, j'ai un peu merdouillé. J'ai voulu faire l'anglais, j'ai français anglais.
C'est un lapsus. New Generation, c'est ça.
Voilà. Non, mais ça devait vraiment être pensé pour faire la suite de l'ancienne série. Et c'est vrai que comme nous, on n'a pas suivi encore New Generation. C'est compliqué de commencer Deep Space Nine avec énormément de questions et très très peu de réponses et le personnage principal qui est très très peu développé en fait.
C'est vrai, c'est compliqué dans cet ordre-là.
Le côté intéressant, c'était, est-ce que c'était voulu ou pas, le face-à-face en fait entre Cisco et Picard. Moi j'attendais quand même qu'on nous explique quand même un peu ce qui s'était réellement passé avec Picard. Parce que pour un épisode pilote, c'est normal aussi. C'est que, mais, comme nous, voilà, les gens qui prennent un épisode tel quel, de savoir un peu où on en est, mais de ne pas savoir ce qui s'était réellement passé, de savoir que Picard était sûrement responsable de la mort de la femme de Sisko, et tout ce face-à-face, en fait, ou cet échange qu'ils ont entre eux, tu sens qu'il y a une intensité, il y a une puissance, mais voilà, j'aurais quand même aimé savoir ce qui s'était vraiment passé à Picard.
On n'a pas un texte qui défile au début de l'épisode explicatif.
Ouais, d'ailleurs ça embrouille quasiment plus que ça ne donne d'explications, je trouve.
Je trouve aussi. Ouais.
Bon. Ah, ça fait. Tu me diras Star Wars épisode 4 quand les gens ont dû arriver à l'époque.
Alors on n'a pas eu la fin de ta phrase, mais je vois l'idée de ce que tu veux dire. Mais bon, après ça confirme l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure hors micro. Deep Space Nine n'est pas une série pour entrer dans l'univers Star Trek. C'est pour peut-être approfondir ou continuer quand on s'ennuie, quoi. Petite remarque, est-ce que vous avez reconnu l'acteur qui joue Julian Bashir, le docteur?
Pas du tout.
C'est Sidi Gelfadil, j'espère que j'ai bien prononcé, qui jouera 20 ans plus tard, ou même 30 ans plus, 20 ans plus tard, le prince, un des princes dans Game of Thrones.
Voilà. Le prince de Bel-Air.
Non, pas du tout. Voilà. Pour la petite histoire, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme, je trouve. Et d'ailleurs, dans le premier épisode de Deep Space Nine, il a pas autant de charisme que ce qu'il aura dans tout le reste de la série. Voilà. Mais ça, c'est pour moi. Okay. JP, est-ce que tu as...
Ben, je peux rajouter que Monsieur Alexander Siddig aussi, qui s'est par la suite fait changer son nom pour Alexander Siddig, il joue Ra's al Ghul dans la série Gotham.
Ah oui, c'est à savoir ça.
Mais personnellement, c'est sûr que la série, comme vous le mentionnez, c'est dur pour un noob d'arriver sur Deep Space Nine. Ça prend un petit peu d'expérience au niveau Star Trek. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle du world building au travers de l'épisode, au travers de la série. Personnellement, je vois ça un peu comme les alliés qui arrivent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement.
Oui,
tout à fait.
Les Israéliens. Moi, je vois un peu les Bajorans comme les Israël, puis plutôt les Juifs, puis les Cardassiens comme étant les nazis. Donc, mais c'est avec beaucoup plus de nuances que ce qu'on a eu dans la réalité, là. Mais il y a vraiment cette narrative là, de reconstruire un monde qui a été conquis pendant des années, qui est plus ou moins apparent dans l'épisode pilote. Là, on s'entend, les Bajorans, je vais être d'accord avec vous, je voulais pas me sentir d'accord, mais je pense que je vais probablement les trouver un peu beige, un peu ennuyants. Mais je pense qu'ils apportent une dimension, surtout... Il apporte un peu ce que Gene Roddenberry ne voulait pas de Star Trek, c'est-à-dire une dimension religieuse. Les fameux accommodements là religieux là qu'on en, ben surtout, je sais pas pour vous, mais nous au Québec c'est un grand débat là. Donc et Deep Space Nine approche ce sujet-là avec une grande sagesse dont on a cruellement besoin de nos jours. Mais comme je dis, je suis pas sûr que ça apparaît là dans l'épisode pilote, malheureusement.
Alors de ce que j'en ai vu sur les divers forums et même sur les groupes Facebook, l'aspect religieux est vraiment pas apprécié dans Deep Space Nine, même dans la communauté française. Je prends en général. Après, moi personnellement, étant le premier chrétien, j'ai trouvé que l'approche était vraiment bonne et il n'y a pas de c'est rare de retrouver dans une série de science-fiction c'est rare d'aborder la religion dans une série de science-fiction et de ne pas l'insulter, de ne pas la cracher dessus, l'écraser ou dire que ça apporte rien. Et justement, je refais le parallèle à nouveau avec ce que tu disais dans Battlestar Galactica, qui part un peu par moment dans le surreligieux, mais dans Deep Space Nine, on a un respect, et je trouve que c'est pas mal fait. Et voilà.
Okay.
Voilà pour ce moment très radiophonique. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter?
Non, pas forcément.
Bon, mais
est-ce qu'on parle de la, est-ce qu'on parle de l'exemple du baseball pour parler de, pour expliquer à une entité extraterrestre comment on fonctionne? So American.
Oui, mais t'aurais pris quoi comme exemple, toi? Le rugby?
Ouais, ça, la question se pose.
Non, mais oui, oui, c'est, bah, il fallait un exemple, le sport est, ouais, c'était, ouais. C'est vrai, c'est très américain.
C'est un bon sport américain.
Mais bon, après, le public cible reste les Américains, hein, donc c'est normal.
Ah, surtout que c'est vraiment un des sports les plus ennuyants à regarder, là. Entre ça et le curling. Mais, encore une fois, le curling, tu vois au moins des gens crier après une pierre, fait que c'est déjà un petit peu plus amusant que tout ça.
Que des mecs qui se font chier sur une pelouse et puis d'un coup ils se tapent un sprint, tu sais pas pourquoi. Oui, c'est particulier. Ouais. Mais bon, c'est culturel, c'est normal. C'est les États-Unis, donc si ça avait pas été baseball, ça aurait été probablement le football ou la MMA, je sais pas, le NASCAR, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, je vous propose de prendre une petite pause musicale. Pour ceux qui nous écoutent sur les ondes de Puissance Maximale, on va écouter les Beastie Boys avec Sabotage, une chanson qu'on a pu entendre dans les trois derniers films Star Trek. J'ai voulu mettre cette chanson exprès parce que on a trop tendance à dire que l'univers qu'a développé J.J. Abrams, c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord. Et du coup, voilà, c'est une prise de position pour ma part. Et ceux qui nous écoutent d'une autre manière, on écoutera Castleshire de Chris Hogan.
Back in one.
Et nous revoici toujours sur les ondes de puissance maximale, ça commence bien. Sans plus entendre, Renaud, tu vas nous présenter l'épisode pilote suivant, et nous sommes en 1995.
Oui. Star Trek Voyager.
ça t'inspire apparemment.
Je ne sais pas comment. Il y a des choses pour moi. Alors,
Renaud, tu as des gros problèmes de coupure. Reprends, s'il te plaît, excuse-moi. Tu as des problèmes de coupure, on t'entend pas très bien.
Alors, donc, Star Trek Voyager, 1995, diffusion, épisode en deux parties appelé Caretaker, donc poursuiveur en français. Alors, pour résumer, de manière assez simple...
C'est plutôt pourvoyeur.
Et j'ai dit quoi ?
Poursuiveur, mais c'est pas grave.
Ah oui, pourvoyeur, non, tout à fait. Pardon. En fait, qui s'appelle les Maquis, qui sont contre un traité, il me semble, donc concernant une union de Cardassiens, et en fait, ils se retrouvent donc hors la loi et ils sont poursuivis en fait par la Fédération. Et en voulant fuir en fait leur opposant, ils disparaissent dans une sorte de tempête. Et il y a l'Enterprise en fait qui va essayer de les retrouver parce que apparemment il y a un agent qui est infiltré en fait dans ce groupe des Maquis, et donc ils vont récupérer l'Enterprise, un personnage qui s'appelle Thomas Eugène Paris, qui va essayer de les retrouver en fait à savoir où sont passés les Maquis, car en fait il a fait anciennement partie de ce groupe. Est-ce que c'est à peu près ça?
J'ai bien compris. Donc, le nom du vaisseau, c'est ça?
Oui, c'est le Voyageur, pas l'Enterprise.
Merci.
C'est pas bien grave. Par contre, juste pour les Maquis, alors là aussi, on va sûrement retoucher le sujet de qu'on vient d'aborder avec Deep Space Nine. Voyager se passe après ou durant Deep Space Nine. Les Maquisards, en fait, ce sont des rebelles qui continuent la guerre contre les Cardassiens. Parce qu'en fait, suite à la libération de Bajor, voilà, c'est monté ce petit groupe de Maquisards qui continue de faire des attaques terroristes contre les Cardassiens. Donc, selon le point de vue que l'on va prendre dans divers épisodes, on considérera les Maquisards comme des terroristes, d'autres fois comme des héros. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.
Je tiens à mentionner que les Maquis viennent surtout du fait qu'il y a des planètes colonisées au départ par la Fédération qui, suite à la signature du traité avec les Cardassiens, sont devenues ces colonies-là sont devenues des territoires cardassiens. Donc, ça vient surtout du fait que c'est des gens, des colonistes qui refusent d'accepter ou de vivre avec le fait que la Fédération a décidé qu'ils n'étaient plus chez eux sur leur colonie.
D'accord. Oui, donc, c'est vrai, ils les ont abandonnés.
Donc, ça rajoute un élément de légitimité à leur cause, je trouve, personnellement.
Oui, totalement. Alors, qu'avez-vous à dire là-dessus?
Ren, tu commences?
Oui, si vous voulez. Épisode assez mitigé. Dans les points forts à noter, j'en ai parlé tout à l'heure, le rôle donc du commandant, de la femme principale, qui est là encore une fois très bien dosé en fait. Comme je l'avais dit, on n'est pas dans le cliché de la femme forte mais très masculin, ou au contraire le côté féminine sexy, voilà, qui a de l'ordre, qui a de l'autorité. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça paraît tout à fait normal. C'est bien dosé. Il y a une bonne relation entre les personnages. J'ai bien aimé au niveau aussi souvent des scènes où c'est lors de dialogues en fait, donc pas des plans larges. Je trouvais que c'était réalisé de manière correcte, et dans les thématiques abordées, voilà, toujours en fait lié à lorsqu'on est face à une force supérieure en fait. Alors là, la thématique c'était surtout, et là ça va être la parallèle avec par exemple un dieu. C'est lorsqu'on a une forme supérieure qui va nous donner, par exemple, du vivre, des ravitaillements, est-ce qu'on doit s'en remettre à elle en fermant, même si on ne sait pas d'où elle vient, ce qu'elle veut pour nous, ou est-ce qu'on doit mettre en doute son fonctionnement et donc le vivre par nous-mêmes? Et ça, c'est j'ai trouvé l'idée intéressante.
Attends, juste. Puis dans tout ce qu'elle a lu. Ouais. Excuse-moi juste une seconde. Est-ce que tu as dit que le voyageur, j'ai peut-être eu une absence. Est-ce que tu as dit que le voyageur s'était retrouvé propulsé de l'autre côté de la galaxie?
du tout. Okay. Et je n'ai pas non plus le lien entre sur la planète, entre ceux qui sont sur Terre et ceux qui sont sur Terre. Ça, j'en ai pas parlé. Tu peux le résumer, hein, tu feras mieux que moi, je pense.
Oui, bah, en fait, durant cette fameuse tempête, les deux vaisseaux, donc le voyageur et le vaisseau des Maquisards, se retrouvent propulsés de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de la galaxie. Et en fait, le voyageur se retrouve à côté d'une station qui contient une entité qui prend soin d'une population qui vit sur une planète juste à côté. Donc c'était pour par rapport à ce que tu disais.
Ouais, très bien.
Et du coup, il y a cette première question de comme tu disais, de est-ce qu'on peut accepter les yeux fermés tout ce qui vient de quelque part, voilà, d'un pourvoyeur, quoi. Et également le thème du perdu dans l'espace, des gens qui sont perdus et qui essayent de rentrer chez eux. Et ça, moi, ça me branche énormément. Charles, t'en as pensé quoi?
Alors, moi, j'ai trouvé le démarrage un peu compliqué au niveau de l'épisode. Je trouve qu'il est très loin à démarrer, en fait. Mais une fois qu'on est rentré dedans, il est vraiment très, très bon. Avec cette histoire de ce milieu, entre guillemets, la personne qui donne tout aux habitants et qui essaie de les protéger, mais à leur dépens, en fait. Ça... Au niveau de l'épisode, en fait, il y a toute cette réflexion sur Dieu et qu'est-ce qu'on attend même de Dieu, en fait. Est-ce qu'on attend réellement qu'il arrête toutes les guerres de lui-même ou est-ce que c'est à nous de faire ce choix-là ? Ça revient pas mal au niveau de la religion, notamment à l'idée que Dieu existe ou non, en fait. Que bah oui, mais s'il existait, il y aurait pas de guerre, il ferait quelque chose pour qu'on meure pas de maladie et tout ça. Et je trouve que cet épisode, il fait vraiment écho à ce paradoxe-là, en fait. Je sais pas si vous avez vu un peu la même chose.
Oui, tout à fait.
C'est très intéressant.
Donc, il y a vraiment ce paradoxe de que doit-on faire lorsqu'on a un pouvoir sur les autres, en fait, limite, aussi. Si quelqu'un est dépendant de nous, est-ce qu'on doit tout faire pour lui ou est-ce qu'on doit l'aider à s'améliorer ? Il y a aussi ça, aussi, comme thématique dans cet épisode. J'ai perdu tout le monde.
Non, pas du tout. Non. Donc, comme ça. J'attendais que Renaud rebondisse.
Non, c'est, et puis c'est vrai qu'en plus, on a tellement l'impression aussi de rattacher ça à nous. Le fait que, est-ce qu'il y a un dieu ou comme ça? Et de savoir qu'au final, c'est juste une entité, peut-être supérieure par les pouvoirs, mais qui au final, en fait, fait des erreurs aussi. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Parce qu'on se rend compte, mais qu'il va finir par venir à mourir. Il sait pas quoi faire de sa création, il fait des erreurs, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, ça, il y a un côté très, très humble, quoi. On se dit, ben, en fait, qu'on est tel avancé ou pas, au final, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait, et c'est cette acceptation de ça aussi. Et le fait que, voilà, on a beau être peut-être juste humain, ou vulcain, ce que vous voulez, et bien, même si on est face à quelque chose de plus gros, ça ne veut pas dire que, on doit s'en remettre à lui.
Okay. Je trouve que c'est vraiment l'épisode qui a le plus de... où la thématique ressort le plus. Sur tous les épisodes qu'on a vus, la thématique est un peu en sous-texte, je trouve, le plus souvent, mis à part... alors, c'est lequel avec le tribunal ? C'est le New Generation. Mis à part celui-là où la thématique est vraiment en avant, mais je trouve que la thématique là est un peu moins grossièrement mise en avant, mais elle est quand même en avant, en fait.
Exactement. Alors, on a un profit de l'histoire sur l'approfondie des personnages. Le caractère design est moins approfondi, je trouve, que les autres pilotes.
Oui.
Mais l'histoire se suffit à elle-même. Pour ma part, c'était l'épisode pilote que je trouve le plus réussi de toutes les séries confondues. Et c'est vraiment l'épisode qui m'a donné le plus envie. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, waouh, là, je me lance vraiment dans une super série. Il y a un côté très action. Je sais pas si vous vous rappelez le premier plan, ça fait très Star Wars. On a deux vaisseaux qui débarquent et qui se tirent dessus à fond. On a.
Je vais te faire insulter dans les commentaires, toi.
Non, c'est fini, ça. On a un côté aussi réflexion, parce que on se retrouve donc avec deux équipages qui sont censés être en conflit en permanence, plus Tom Paris qui est au milieu, et ça va faire des tensions pour l'avenir. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, le fait, je sais pas si vous avez trouvé comme moi, mais peut-être pas. Lorsque Janeway et Chakotay, donc lorsque le capitaine Janeway de Starfleet et le capitaine Chakotay, donc du Maquis, le Maquisard, se retrouvent face au pourvoyeur, Chakotay a une attitude beaucoup plus pacifiste, beaucoup plus Starfleet.
Oui.
Que Janeway qui est vachement rentre dedans. Je pense que si elle avait pu le tuer pour arriver à ses fins, elle l'aurait fait de suite. Et je trouve que ça donne des idées très intéressantes. On renverse un peu les habitudes que l'on aurait pu avoir au fil des années avec les autres séries.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Et puis bon, voilà, les mecs ils sont à je sais plus combien de milliers d'années-lumière de la Terre.
Ils sont perdus, quoi.
Comment est-ce qu'ils vont faire pour revenir? C'est vachement prenant.
D'ailleurs, c'est un des trucs dont on a parlé off avec toi, Rémi. C'était une première chose où je t'ai relancé par rapport aux épisodes en t'informant à quel épisode j'en ai tout ça. C'était une des premières fois où je t'ai dit comment ça se passe par la suite au niveau de cette intrigue-là. Ça montrait aussi voilà qu'il y avait que tu vois, ben je m'y intéressais, j'étais plongé. Donc même en y trouvant des défauts, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de suivre, on veut savoir mais comment cela se termine.
Ouais, JP, qu'est-ce que t'en as pensé toi?
J'ai beaucoup de parce que ayant vu la série, c'est dur pour moi de juger juste l'épisode pilote.
Oui, non mais moi, après je vois ce que tu veux dire.
je vois beaucoup de potentiel qui a été gâché. Mais quand même au niveau de si on se tient strictement à l'épisode pilote, l'intrigue est bonne. La décision de Janeway à la fin de protéger, il aurait eu moyen pour elle de détruire l'engin et de retourner chez eux par la suite, là, tu sais, je veux dire, une bombe avec 5 secondes et 2 minutes de détonation, quelque chose. Tu sais.
Oui.
Je trouve que c'est juste un peu là où Bob laisse, parce que je trouve que la façon dont ils sont restés pris là dans le cadran Delta, ça aurait pu être un peu mieux fait. Mais la décision morale reste la bonne.
Selon notre point de vue, ouais. La vie des autres est plus importante que notre confort. Après, oui, je vois les problèmes que tu soulignes. Moi aussi, j'ai vu la série en entière. C'est vrai que plus tard, on se rend compte que ben, peut-être qu'on a été un peu trompé avec cet épisode pilote. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder à propos de cet épisode? Le vaisseau bioneural. Le fait d'avoir mis un réseau bioneural dans le vaisseau, ça peut sous-entendre pas mal de choses, non?
Mais j'ai même pas fait gaffe là.
Ok.
Tu m'as posé une colle.
Non, en fait, ils expliquent au début qu'ils injectent dans les systèmes du vaisseau tout un réseau bioneural. Donc, c'est comme si le vaisseau avait son propre cerveau, quoi. Et je trouve que là, pareil, on touche une idée. C'est vachement intriguant.
Ouais, bah, c'est peut-être pas assez mis en avant, tu vois.
Tout à fait. Ouais. J'ai même pas capté aussi.
Ouais. Ça va, je suis pas le seul.
Ok. Après, moi, j'ai souligné un truc qui m'a surpris. J'avais pas fait attention au premier visionnage, mais là, ça m'a surpris. Tom Paris et Harry Kim qui s'échangent deux phrases et ça y est, ce sont les meilleurs amis du monde. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon. Alors qu'on aurait pu le faire au fur et à mesure, même en deux, trois épisodes. Et pareil, toujours. Oui, vas-y.
Ça illustre un peu justement là où ça, ce que je parlais là au niveau scénaristique. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Là.
C'est une série. Mais en fait, c'est une série qui fonctionne avec un statu quo très fort. Bon, on y reviendra sûrement dessus dans d'autres épisodes, mais voilà, on a. C'est vraiment. On a un statu quo, donc tel personnage sert à ça, tel personnage sert à ça, et tel personnage fera ça. Et puis on leur met des situations diverses, voire les réactions. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. je pense qu'on a à peu près tout dit sur Voyager. Allez, on fait un bond en avant en 2001 avec l'épisode pilote de Enterprise. Et Charles, tu nous le présentes.
Ah, parfait, c'est moi qui le présente. Eh bien, franchement, c'est mon épisode pilote préféré. Voilà, je le dis direct.
Ouais, c'est un très très bon épisode.
Je le trouve vraiment très très bon. Alors en plus, du coup, le fait de repartir vraiment au tout début de la découverte galactique, en fait, quasiment, ce que les humains ont découvert du coup les Vulcains. Ils ont essayé du coup de créer un méga vaisseau pour pouvoir découvrir la galaxie, sauf que les Vulcains du coup au niveau technologique les bloquent pour éviter qu'ils ne fassent n'importe quoi. Et donc durant l'épisode, il va y avoir un, alors je sais plus la race par contre, qui meurt déjà.
Il y a un Klingon.
Un Klingon, voilà, c'est ça. Un Klingon qui meurt et du coup, l'humanité profite de cette opportunité en fait pour lancer son projet réellement de méga réacteur.
Et c'est pouvoir, notre projet.
Voilà, c'est ça. Merci. Et pour pouvoir du coup commencer l'exploration galactique comme il était prévu, quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près le gros résumé.
Oui, en fait, ils veulent ramener le Klingon qui n'est pas vraiment mort. Ils veulent le ramener dans sa planète natale.
Vrai, oui.
Et du coup, pour ça, ben, il faut partir dans l'espace. Hein. Donc,
c'est ça.
Quelque part, il est temps de se lancer. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, j'ai adoré cet épisode pilote de cette série, tout simplement parce qu'on présente vraiment les tout débuts, en fait, de la Fédération, avec aussi vraiment les particularités des Vulcains. Ils sont très logiques et tout ça. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment la série de démarrage. Ça a été vraiment bien fichu parce que quand j'ai regardé tous les épisodes pilotes, c'est la série qui m'a le plus fait rentrer dedans, en fait.
Voilà. Ouais, c'est vraiment une série, en fait, qui, à la base, en fait, Enterprise arrive là où le triptyque Next Generation, Deep Space Nine et Voyager commence à s'essouffler et puis on change de siècle, on est au 21e siècle, donc il faut ramener du nouveau public, donc c'est pour ça, c'est un peu plus racoleur, plus jeune dans son traitement. Voilà. Renaud, t'en as pensé quoi, toi?
Ben, à peu près comme Absol. Un épisode pas forcément le plus intéressant, mais le plus agréable à regarder. Il y a plus de rythme au niveau de la réalisation, beaucoup mieux aussi. Par exemple, à un moment, t'as une sorte de montage à la Brian De Palma, tu sais, premier et second plan net, les deux. Tu vois, des petites idées de réalisation comme ça. On est dans un épisode qui est beaucoup plus tourné vers l'action et l'aventure. Mais voilà, d'un moi le côté, on va dire, question sur l'humanité, thématique philosophique, qui est quand même en personnage central, le personnage du Vulcain, enfin de la fameuse Vulcain, qui permet justement d'avoir des échanges, et en plus des échanges assez directs, assez dynamiques, et ça fait vivre la série, et c'est pas mal. Et ça, dès le générique qu'on voit en plus, là où on avait un générique, peut-être, où on voyait directement le vaisseau dans l'espace, là, on a un générique plus humain où, en fait, on voit l'évolution technologique de l'humanité, où ça se termine dans l'espace, et voilà, et ça annonce assez bien, en fait, en tout cas, cet épisode pilote, sans avoir vu les autres après.
Ouais, ça faisait partie des questions que je voulais aborder avec vous, ce que vous avez pensé du générique. Je trouve ce générique vraiment très beau, très, très intéressant.
Avec une chanson, la bonne
Bonne Jovie, oui. C'est vrai qu'il y a un petit air. Voilà, ça c'est comme ça. Mais voilà, mais ça correspond vraiment avec ce que je disais, changement de siècle. JP, tu corrobores ce que je dis ou pas du tout?
Moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai I Got Fight of the Heart.
Ah ouais, elle est
belle. non, mais je suis content. En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis content que René Absol aime la série, parce que justement. Je pense que ça veut dire que les producteurs ont fait quelque chose de bien pour genre, introduire les gens à l'univers de Star Trek. Je pense que c'est un peu ce qu'ils voulaient faire. Personnellement, j'aurais fait sans la trame narrative de temporelle, là.
Je pense que ça fait un peu lourd pour un premier épisode, ouais.
Mais en même temps, je comprends qu'il fallait comme plaire les Trekkies plus hardcore aussi. Mais c'est ça, donc. Et juste pour corriger, c'est pas les débuts de la Fédération. La Fédération n'existe pas encore. C'est les débuts de Starfleet.
Oui, de Starfleet. Oui.
La Fédération va arriver quelque chose comme une dizaine d'années plus tard, en 2161.
Oui, parce que Starfleet, c'est les humains, et la Fédération, c'est l'alliance Vulcain-Humain, en gros, c'est ça?
Ben, c'est l'alliance ben, des Vulcains, Humains, Andoriens, et d'autres ce qui est début... Débuté comme les Nations Unies, ça a grandi.
Oui.
Starfleet est un peu devenu comme les casques. C'est intégré à la Fédération par la suite, devenu un peu comme les casques bleus là.
Ok.
Ouais. Gros problème par contre avec cet épisode, mais là vraiment très très gros problème.
Oui.
Cette scène gratuite de décontamination qui est extrêmement racoleuse. Quand j'ai vu ça la première fois et quand je l'ai revu la deuxième fois,
je me suis demandé ce que ça foutu là en fait.
Ouais, ma part féministe a fait putain. Et vraiment, même mon épouse qui l'a vu m'a dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est pas du Star Trek? Et en fait, c'est les mauvais côtés du 21e siècle, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le capitaine Archer avec deux pistolets en train de tirer. C'est tellement un solo qui fait du Star Wars.
Ah, mais clairement, c'est mais Archer, c'est un solo, hein. Ça, c'est clair, hein. Il a un charisme, par contre, vraiment très particulier. Il fait beaucoup plus bad boy que les autres capitaines des autres séries, en fait.
Ouais, là, c'est vraiment un Américain qui part dans l'espace, ouais.
C'est ça, ouais. C'est le cowboy de l'espace.
Pour mettre en contexte ce que tu viens de mentionner, ce que tu mentionnes, c'est surtout parce que... tu vois, Next Generation et Deep Space Nine, eux, c'était des séries qui étaient vendues en ce qu'on appelle en syndication. Donc, c'était vendu directement aux chaînes locales de télévision. Donc, il n'y avait pas de chaîne centrale pour dire, bon, ça, tu peux faire ça, ça, tu fais pas ça. C'était vraiment le studio qui contrôlait là, la série. Pour ce qui est de Voyager et Enterprise, c'était des séries qui étaient diffusées sur la chaîne UPN, donc United Paramount Network, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été lancée en 1995 avec Star Trek Voyager. Et Star Trek collait vraiment pas du tout avec le contenu qui était diffusé sur cette chaîne-là. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que justement ces scènes racoleuses-là ont été mises là pour essayer de conquérir l'auditoire existant de UPN, le public non trekkie qui regardait cette chaîne-là. Là.
D'accord, ok.
Je sais pas, c'est bizarre, parce que on pourrait penser que ça sous-entend des choses entre T'Pol et Tucker, mais pas tant que ça, du moins pas dans cette scène, et je sais pas, moi ça m'a vraiment dérangé.
C'est vrai que ce que ça aurait pu savoir... D'un côté les humains, d'un côté les Vulcains, comment ça pouvait marcher. Mais là, c'est vrai que, tu vois, je me suis dit, non, ils vont pas faire une scène juste pour ça, faire une sorte de fausse histoire d'amour entre les deux. Et ouais, un peu déçu. Après, est-ce que c'était d'époque? Mais voilà, après, t'as la mise en avant de la musculature, tu vois, le mec puissant, la femme assez bien formée, tu vois, sexy et tout ça. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment une scène gratuite. Pour le coup, c'est dommage.
Ouais, surtout que son concurrent qui devait être Stargate, ça doit être la même époque, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas le souvenir d'avoir de scènes comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Un point positif que j'ai trouvé, le côté... Bon, il y a beaucoup d'hommages à la science-fiction de ces années-là, mais j'ai bien aimé lorsque les Souliban, la race extraterrestre qui peut devenir invisible, attaque le vaisseau, il y a un petit côté alien, tout le monde cherche partout, là, avec les lumières s'éteignent. Peu, ouais. J'ai trouvé ça sympa. Après, les personnages sont pas hyper charismatiques, à part les trois principaux, donc à part le capitaine, T'Pol et Tucker, là, le capitaine, la Vulcaine et le chef des machines, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que, par exemple, j'ai oublié son nom, l'asiatique.
Hoshi Sato.
Est-ce que, oui, voilà, merci beaucoup. Est-ce que Hoshi, quand vous avez envie de la découvrir plus, par exemple?
Pas vraiment.
Ouais, c'est un peu bizarre.
Ouais. Hein. En fait, elle ressort pas assez, surtout que Archer prend quand même pas mal d'écran, je trouve. T'Pol et son contraste pur, et je trouve qu'ils prennent tout l'écran en fait. Hein. On se concentre vraiment sur eux au niveau de l'épisode.
Ouais, c'est surprenant. Et ouais.
Excusez-moi.
Non, c'est pas. Et dernière question, qu'avez-vous pensé des tenues? On dirait plus des mécanos de l'espace que des militaires. Je trouve ça génial.
Oui, 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 clairement. On sent que c'est vraiment les prémices, en fait, du truc, quoi. On sent que c'est vraiment les débuts, quoi.
Ils ont des poches, c'est déjà un gros... C'est déjà fantastique.
Oui, c'est vrai.
Mais non, personnellement, c'est un de mes uniformes préférés, parce que justement, il est pratique un gars qui fait mécano de l'espace, mais quand tu considères que c'est bon une ère plus comment dire préhistorique là, au niveau du vol spatial là, quand on compare à Next Generation et Deep Space Nine, ben, pour moi ça colle. Là.
Oui. Et d'ailleurs on le voit avec la première utilisation du télétransporteur là, pour la première fois une personne se fait téléporter, ça fait
oui,
ils sont tous choqués, c'est rigolo.
Et j'aime beaucoup aussi ça, le fait d'être téléporté en fait. Ils partent vraiment sur l'idée comme quoi on est détruit un petit peu quand on est téléporté. Ouais.
Mais ça c'est quelque chose que je, personnellement, si demain on me dit ça y est la télétransportation est possible, je ne m'en approche pas. Je ne supporte pas. Bah, il y a plein d'épisodes qui m'ont fait me dire il faut surtout pas que cette invention soit réalisée parce que c'est pas possible.
Bah, sur l'idée, ça paraît génial, la téléportation. Après, sur le papier, ça veut dire quand même et je trouve que cet épisode le met bien aussi en avant, c'est qu'on détruit notre corps entièrement pour être reconstitué ailleurs. En gros, c'est comme s'il y avait une grosse machine 3D à la sortie, quoi.
Ouais, exactement. C'est un détruit tes cellules pour les reconstituer plus loin. Je trouve le concept très étrange. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode?
Non, mis à part que voilà, ouais, les Vulcains sont bien plus mis en avant au niveau de leur mentalité, en fait. Je trouve dans cet épisode-là. Qu'on comprend aussi bien la volonté des humains de se libérer du joug des Vulcains un peu.
Est-ce qu'il y avait des fans de Code Quantum parmi vous avant de regarder Enterprise?
Oui.
Non.
C'est toute mon enfance, tous les après-midi pour mon goûter, je regardais un épisode de Code Quantum. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon épouse qui aime bien Star Trek mais qui ne regarde pas aussi rapidement que moi parce que enfin voilà, j'ai un gros rythme, elle avait complètement décroché, et quand elle a vu que je commençais à Enterprise, elle m'a dit « Ah, je veux le regarder absolument !» Et même là, quand j'ai revisionné à nouveau les épisodes pour l'émission, elle m'a dit qu'elle voulait le revoir parce qu'elle aime énormément Scott Bakula, et voilà, c'est des souvenirs d'enfance, d'adolescence, vraiment très agréable.
D'ailleurs, Scott Bakula, qu'on peut voir dans NCIS Nouvelle-Orléans.
Oui.
Ça, par contre, je suis pas du tout. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait un épisode. J'ai oublié le nom de l'acteur du comparse de Bakula dans Code Quantum,
oui,
qui
oui,
vient
Scott,
dans Enterprise.
Non, c'est pas Scott, c'est voyons. C'est Dean Stockwell
qui joue. On refait le lien, la boucle est bouclée dans Battlestar Galactica.
Oui.
Eh oui.
Voilà. D'autres choses à dire sur Enterprise?
Non. Épisode favori. Voilà.
It's been a long road getting from there to here, but c'est ça.
Bon, ben nous voilà en 2017. Discovery est là. Renaud, c'est à toi la parole.
Merci. Discovery. Donc là, on a décidé pour cet pilote de prendre les trois premiers épisodes. Donc, qui comprend des salutations vulgaires. Bataille aux étoiles binaires et le contexte est pour les rois. Voilà. Donc, série Netflix. Synopsis, donc, depuis, ça fait environ 100 ans que les rois, en fait, n'ont plus été vus. Et l'un d'entre eux, Tikuvma, chef qui, en fait, dirige un ancien vaisseau, va décider, en fait, de rallier, plutôt de réconcilier les 24 peuples des différentes maisons Klingon. Et au même moment, en fait, après avoir réalisé une mission sur une planète, on suit en fait un vaisseau qui détecte dans l'espace une forme, une sorte de sujet inconnu, et à travers des astéroïdes, et ils vont en fait décider d'envoyer une femme, donc c'est avec le personnage principal qui s'appelle Michael, donc ils vont décider de l'envoyer elle dans l'espace, mais pour justement, enfin juste dans une combinaison en tout cas, pour justement aller voir de quoi il s'agit. Et après délibération avec, je crois que pour moi c'est mon épisode préféré.
D'accord, carrément.
Ouais.
Alors pourquoi peux-tu pourquoi?
Pourquoi? Je l'ai trouvé assez bon. Bon déjà au niveau de la réalisation, il n'y a pas à dire, les effets spéciaux, notamment dans l'espace, ils sont magnifiques. Même les personnages, les monstres.
On est en 2017, ouais, c'est sûr.
Ouais, et on aurait pu se dire en plus pour une série, même on aurait pu rester sur quelque chose un peu basique. Les premiers monstres qu'on voit dès l'intro de l'épisode, c'est assez bon. Costumes sont nickel. Au niveau de la lumière, de la réalisation, j'ai trouvé vraiment sympa, intéressant. Il y a la métaphore qui est d'actualité aussi, avec les Klingons. Qui décide de rester une race pure, en fait.
Oui.
Avec l'idée d'un porte-forme qui a pas d'origine ou pas de famille et qui veut se faire un nom, qui est prêt à se sacrifier pour une cause. Voilà. On sait de quoi on parle. On pense au terrorisme et tout ça. Donc, c'est peut-être un truc qui nous touche un peu plus facilement, surtout notre génération. Encore une fois, il y a un personnage, le capitaine qui est une femme. Ça paraît tout à fait normal. Ça fait pas cliché, tout est naturel. Et puis aussi les origines. Justement, l'origine du héros Michael, qui a été formé par un Vulcain du nom de Sarek. Ça aussi, donc je sais pas si c'est une première pour la série, en tout cas, ça a l'air de l'être dans la manière dont c'est montré. Donc pour tout ça, voilà, ça m'a assez emballé. Après, voilà, le petit moins, j'ai noté le générique, qui faisait un peu trop maquette, un peu trop simple. Et pour certains moments, au niveau de la réalisation du montage, t'as des plans qui durent quelques millisecondes, qui sont un peu bizarres, qui n'apportent rien. Et je l'ai vu 2-3 fois, donc ça m'a interpellé. Ouais.
Tu veux parler des plans débulés?
C'est-à-dire?
J'avais remarqué, parce que là, pour l'émission, j'ai juste regardé le troisième épisode, Context is for the Kings. Mais j'ai le souvenir dans les deux épisodes préquels d'une conversation entre Michael et le capitaine, tout en plan en contre-plongée et oui. Débulé, extrêmement débulé. Oui. Et sur le coup, ça m'avait choqué, mais après, avec réflexion, je me suis dit que ça annonçait le tournant qui se passe quand Michael prend le pouvoir sur son vaisseau, le Shenzhou.
Ouais.
Charles, tu en as pensé quoi?
Moi, donc, ça va être le deuxième préféré au niveau de Discovery. J'ai été impressionné par, alors, ça y est dans toutes les séries Star Trek, mais la place de la femme, je trouve que là, elle est vraiment très importante, en fait, au niveau de cette série, parce qu'on a quand même le chef, la capitaine, du coup, qui est une femme, mmh. et l'héroïne qui est une femme. Donc, ça fait vraiment deux gros personnages forts. Féminin et ça ne fait pas trop mise en avant non plus avec en plus une femme de couleur dedans, donc j'ai été vraiment impressionné au niveau de cette partie là. Après au niveau scénario, j'étais un peu perdu, on va dire, parce que j'ai commencé moi avec Discovery. Quand j'ai fait mes visionnages, j'ai commencé par Discovery. Et du coup, les Klingons et tout ça, je connaissais pas. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu perdu par rapport à ça. Voilà. Après, sinon, c'était vraiment des très, très bons épisodes. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Non, le fait que l'héroïne aussi, à la base, est quand même lieutenant, c'est ça? Si je dis pas de bêtises.
Commandeur.
Voilà. Et que du coup, elle baisse d'un coup et qu'elle vient au rang inférieur, en fait. J'ai beaucoup aimé aussi.
Le fait que tu sois perdu par les Klingons, je pense que c'était voulu par la production, parce que Discovery, c'est un peu le même cas que Enterprise, donc la série précédente. On essaye de recréer une fanbase, d'apporter de chercher de nouveaux fans. Et je pense qu'ils ont fait exprès en nous présentant cette grosse race. On se dit, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe et tout? C'est quoi ces trucs? Parce que, à côté des Klingons de Discovery, les Wraith de Stargate, ils passent vraiment pour des petits,
ah oui, non,
des
petits rigolos. Clair.
Ouais. Pour ma part, je trouve l'univers beaucoup trop sombre. J'ai un gros problème avec ça. C'est vraiment, mais c'est moi qui ai du mal, mais j'ai plus l'impression d'être dans The Expanse 100 ans plus tard que dans du Star Trek.
D'accord.
Et toi, JP, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je suis un peu d'accord, justement. Oui, en effet, c'est sombre, mais je pense que c'était voulu, parce que ça, c'était la première série qui était, ou du moins, la saison était planifiée quand même relativement. Donc, il y avait déjà, il savait où ce qui s'en allait, contrairement à toutes les autres séries. Donc, je pense que commençons, mais ça finit, tu sais, ça finit plus léger. Je pense que c'est pour essayer d'attirer. Je pense que c'était probablement pour essayer d'attirer, mais pour montrer aussi que il y a pas juste du rose dans l'univers de Star Trek, là.
C'est très sombre.
Ouais. Personnellement, je veux dire, je dirais pas que j'ai, avec un certain recul, faut voir, moi, personnellement, Discovery commence avec Contact is for Kings parce que le Vulcan Hello et la bataille aux étoiles binaires, je vois ça comme vraiment un préquel,
ah oui, clairement, oui.
Parce que c'est ça, donc.
C'est une mise en contexte, justement, ouais.
Justement.
En fait, les épisodes pilotes n'ont rien à voir avec ce qu'on va suivre durant la série, en fait.
Mm-hmm. Ouais, c'est pour ça qu'on vous avait demandé de regarder le troisième exprès, vraiment.
Si on prend les deux premiers épisodes dans leur contexte, je pense que c'est absolument, c'est quand même très bien. J'aime justement l'introduction sur la planète avec ce qu'on voit Burnham et le capitaine faire quelque chose de très Starfleet, ce qui s'en vient par la suite. L'ambiance sur la passerelle avant la rencontre avec les Klingons, c'est très décontracté. On voit qu'il y a une belle camaraderie. C'est vraiment juste l'éclairage qui est un peu sombre. Mais outre cela, on sent vraiment que c'est un épisode de Star Trek et que c'est un équipage de Starfleet. Même, justement, j'apprécie... certains n'apprécieront pas le fait justement que le design a radicalement changé. Personnellement, moi, comme vous connaissez un peu, je suis plus au niveau... je veux plus prendre en contexte la production que l'univers. Donc, quand on prend ça en contexte, ça fait beaucoup de sens parce qu'on pouvait pas revenir à des décors en carton des années 60. Autant que les fans voulaient. À savoir maintenant pourquoi ils ont décidé de faire une suite à Enterprise plutôt qu'une suite à Voyager ou une suite à Deep Space Nine. Ça, malheureusement, j'ai aucune idée. Plus ce que je sais, c'est qu'ils ont voulu faire ça. Là, probablement à cause justement des films, des préquels, ils ont décidé de faire quelque chose qui est dans un coin de la ligne temporelle de Star Trek qui est comme plus connu, parce qu'on est plus à l'aise, on est plus dans des eaux connues. J'ai un petit peu de misère avec ça, mais en même temps, ça me choque pas outre mesure, c'est juste...
Non, je vois ce que tu veux dire. Après, bon, c'est pas... Oui, c'est surprenant sur le coup. Je trouve que ça limite vachement la série, en fait, parce que ils peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent. Ils pourront pas... Mais remarque, d'un côté, je dis ça, mais... Ouais, enfin, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient par rapport à la guerre avec les Klingons. Enfin, si tu vois tous les dégâts cause cette guerre, ils se permettent pas mal de liberté. Mais c'est vrai que bon, pourquoi ce moment-là, c'est pas grave.
Tant après, pis, c'est pas grave. Tu sens qu'en effet, ils ont peut-être voulu aussi trouver un nouveau public, parce que enfin, t'as quand même des choses importantes qui se passent. Direct, tu pars quand même sur un conflit, parce que quand même. Les Klingons, c'est quand même quelque chose de très très important. Ils partent directement en conflit, alors que l'idée de Star Trek, c'est justement d'éviter ça et de découvrir des espèces. Là, tu parles en conflit, ça chamboule les choses. Là, je parle juste en ayant vu les épisodes pilotes, hein, je rappelle. Mm-hmm. T'as quand même pas mal de rebondissements. Je veux dire, t'as certains personnages principaux sur lesquels, au fait, quand même, tu t'attaches, que ce soit gentil, méchant, hein, qui meurent assez rapidement. Oui. Enfin, ça pose quand même des choses assez importantes et ça a évolué. Je veux dire, quand tu regardes, on pourrait dire épisode pilote, ça peut être le 1 et 2 parce qu'ils sont liés, et le 3, on commence là une nouvelle partie de l'histoire qui se passe plusieurs mois après. Enfin, c'est, disons que ça va vite. Alors, est-ce que après c'est parce que c'est les premiers épisodes, j'ai pas vu la suite, ou est-ce que c'est comme ça durant toute la saison? Mais en tout cas, ça bouge, quoi. Ça bouge beaucoup.
Ça bouge énormément, ouais, dans cette série. Après, moi, personnellement, des salutations vulcaines, je comprenais pas le titre au départ. Mais ça m'a fait beaucoup rire quand tu comprends, en fait, pourquoi ils ont choisi ce titre-là. Parce que tu te dis que les Vulcains, ouais, quelqu'un de logique et tout, ils doivent avoir une approche particulière. Et alors quand l'autre, elle lui demande, on peut spoiler ou pas ?
Oh oui.
Oui, on oui, vas-y, spoiler. Ça fait plus d'un.
Voilà. Voilà. Donc, du coup, quand l'autre, il lui demande, non, mais comment vous avez fait? Bon, on leur a juste foutu sur la gueule. J'ai trouvé ça, mais tellement énorme. Mais tellement énorme. J'étais plié en deux devant mon canapé, devant la télé. Franchement, tu les vois pas comme ça, en fait. Et tu découvres une nouvelle facette, en fait, des Vulcains, qui sont très logiques, mais qui peuvent aussi se montrer, vraiment, immoral, entre guillemets, quoi.
Ben, en fait.
C'est pas autant de la logique que du pragmatisme.
Voilà. Ça marche, du coup, on continue.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous avez pensé du concept des spores? Donc, pour le contexte, le Discovery, donc le vaisseau que l'on va suivre, a une salle remplie d'espèces d'algues qui diffusent des spores et utilisent ça comme moteur pour se bouger. Et moi, j'ai trouvé ça, quand on voit la première fois la salle remplie de sport, vraiment, je pense que l'effet recherché a marché sur moi. C'est, j'ai fait, j'ai eu un moment de, ça fait un break dans la narration qui, justement, comme vous disiez, ça va vite et tout, machin. Et puis d'un coup, on voit les sports et pouf, tout est posé, là, quelques secondes, tu reprends ton souffle avant de repartir. Et moi, j'aime l'idée de, C'est quasiment de la téléportation d'ailleurs. Le vaisseau.
On n'est pas loin de la téléportation. Ouais.
Non, en effet. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est basé sur des théories existantes qui existent pour le vrai. Donc tout ce qui est le réseau, il y a des expériences qui se font présentement parce qu'il y a vraiment des réseaux qui se créent dans la Terre avec les spores. Donc, c'est juste qu'ils ont pris ça et ils ont fait ce que Star Trek fait, c'est-à-dire pousser les théories à un niveau supérieur. Beaucoup de Trekkies qui ont de la misère avec ça, mais quand on regarde les expériences qui ont été faites par, justement, le scientifique qui s'appelle aussi Paul Stamets, qui est le nom du vrai scientifique qui a mis sur papier ces recherches-là, c'est fantastique, là.
Alors ça, tu vois, tu m'apprends quelque chose et ouais. Je trouve ça génial. Ouais. Parce que c'est vrai que pour la petite info, mes très chers cadets, Discovery a beaucoup de mal à se faire accepter par la communauté trekkienne. Il y a une grosse partie qui déteste cette série.
D'accord.
En fait, je dirais que c'est une majorité, c'est une minorité très 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 vocale.
Après, bon, moi je vais pas vous mentir, la première fois, jusqu'à à peu près la moitié de la saison 1, à chaque épisode je faisais des bonds dans mon lit, j'étais là, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est? Par exemple, la réaction du chef de sécurité, je sais pas si vous avez vu ce comportement, j'avais envie de la claquer tout le long de l'épisode.
Dans Discovery, moi j'ai remarqué, alors moi après j'ai déjà regardé toute la série, on se l'est mangé avec ma femme, t'es vraiment happé dedans, mais il y a des réactions qui sont complètement débiles. Il y a des fois, tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça, en fait?
C'est vrai. Mais après, je pense que ça correspond à cet effet très dark and gritty, en fait. Par moment, ils vont apporter des comportements un peu illogiques, justement, pour créer une situation sombre.
D'accord.
Et par rapport à ça, justement, par rapport, voilà, au fait qu'il y ait des réactions que tu... pas absolument. Moi, oui. Ça m'a fait ça, c'est un moment dans l'épisode, alors je sais plus si c'est fait partie du, je crois que c'est fait partie du 2, où justement, ben, lorsqu'on a nos deux héroïnes qui entrent sur le vaisseau Klingon, tu te rends compte qu'elles arrivent à se battre face à des Klingons. Moi, j'étais là, mais attends, mais c'est, même si elles ont appris des arts martiaux, je sais pas trop quoi, c'est des femmes, les Klingons, ils ont une tête de plus qu'elles et ils sont beaucoup plus carrés. Comment elles font pour se battre? Et notamment pour Michael, en fait, c'est expliqué à l'épisode suivant. Où, en gros, à un moment, elle se bat dans la cantine. Il y a une fille qui lui dit, ouais, c'était quoi comme méthode de combat? Elle explique, en fait, où elle a appris ça. Et voilà. Là où, à un moment, je me suis posé une question, il y a eu une réponse après. Après, j'ai pas constaté de flou. Il y a juste à la fin. Bon, là, ça va partir un peu en spoil de la fin d'épisode 3. Où Michael, elle accepte de faire partie du vaisseau. En acceptant, ben, toutes les questions ou peut-être les, enfin, il y a beaucoup de choses qui restent sans réponse, en fait. Par rapport à ce vaisseau, elle a l'air de l'accepter. Et tu te dis, mais par rapport au monstre qu'elle a vu, à un moment, mais
il y a un énorme monstre, elle se demande pas en fait comment il est arrivé là ni rien. On dirait, voilà, est-ce que c'est évolué ou pas, mais on a l'impression que y a certaines choses, voilà, quelques raccourcis de scénario.
Ben, tu auras une réponse à cette question. Et okay. Justement, je voulais parler de ça parce que l'exploration du vaisseau à la dérive.
Et c'était
qui reprend, ça reprend tellement de clichés de la SF moderne. Je trouve ça.
J'avais l'impression de repartir dans la première série, en fait, des années 60.
Ouais, voilà, c'est trop cliché, c'est dommage.
Ouais. Et tu les vois arriver dans le vaisseau, t'es là, mais les gars, vous voyez, ça pète de partout, il y a un truc qui bouge, mais dégagez de là, amenez des renforts si vous voulez, mais dégagez de là.
Et puis le Klingon qui arrive et qui fait
si j'avais un défaut à donner vraiment à cette série, ça serait ça en fait. C'est des moments trop téléphonés en fait.
Ouais.
Ouais.
Après, au niveau rythme, au niveau choix des personnages, charisme des personnages et tout ça, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Mais il y a des fois des réactions qui sont complètement illogiques.
Bah, qui semblent illogiques.
Disons que par rapport aux autres, là, tu vois qu'il y a, et c'est les séries actuelles. C'est un peu un anti-héros. Et derrière, il y a tout ça. C'est que, aussi, elle va faire partie de l'équipage de Discovery. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas très clair derrière. Il y a tout ce côté par rapport à ce que vous aviez vu. Mais en fait, tout n'est pas rose. Et ça passe voilà par le vaisseau, l'équipage, leur mission. Ça passe aussi par le personnage, où quand même il répète plusieurs fois dans l'épisode que c'est elle qui est à l'origine de tous ces morts et tout ça.
Oui.
Tu sens que t'as envie de qu'on se mette à sa place et que on lui rappelle sans cesse. Oui, t'es forte, oui, t'as fait de bonnes choses, mais t'es responsable de milliers de morts, quoi.
Alors leur réaction, j'ai pas forcément très bien compris non plus, personnellement.
Ouais, non, je suis d'accord parce que, mais en fait, c'est. Je pense que c'est une perception, parce que vu que c'est une perception des personnages, que c'est elle qui a commencé ça, parce que c'est elle qui a eu la tête forte dans toute cette histoire-là, même si c'est pas factuellement elle la cause.
Ben alors, tu vois, je trouve dommage, c'est qu'ils nous aient montré la scène. Ça aurait été beaucoup mieux, en fait, je pense, au niveau de la série, de nous cacher l'idée du choix, en fait, vraiment, de ce qu'elle décide de faire. De l'accuser, de dire que c'est elle, et via des flashbacks, beaucoup plus tard, qu'elle raconterait son histoire, et là, on se rendrait compte que c'était pas elle.
Alors, ouais. ce que tu dis, je l'ai entendu une fois sur un autre podcast, Feminist Frequencies, qui fait des reviews de Star Trek, et à la fin de la série, il y a une des chroniqueuses qui dit que ça aurait été peut-être mieux de mettre les deux épisodes de préquels en forme de flashback tout au long de la série, plutôt que de nous les coller de suite et qu'on voit tout de suite maintenant.
C'est ça.
Je sais pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus, personnellement.
Parce que, pour avoir vu la suite de la série, il y a des liens très forts entre certains personnages qu'on a besoin de connaître. Pour pas en dire plus pour la personne qui a pas vu la suite. Je pense que vous avez
c'est moi.
Oui, mais même ne serait-ce que Saru et Michael ont un passé commun, et tu peux pas le sous-entendre. En fait, il faut le comprendre.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a certains choix qui auraient dû être mis sous silence. Le choix de dire, on attaque les Klingons et on leur fait notre salutation vulcaine, ça aurait peut-être pas dû être décidé de là, ou pas montré positivement dans l'épisode, et puis que dans le troisième épisode, on nous dise oui, c'est elle qui est responsable. Il y a un changement de registre aussi qui est vraiment bizarre, quoi.
Je sais pas.
Voilà.
J'aimerais faire quelque chose qu'on n'a pas fait pour les autres épisodes, qu'on fasse ne serait-ce que chacun deux, trois mots sur chacun des personnages principaux. Par exemple, Renaud, qu'est-ce que tu as pensé de Michael de manière générale ?
J'ai apprécié le personnage dans les deux premiers épisodes, l'évolution. Après, dans le troisième, le fait que tout d'un coup, elle repasse en mode un peu vulcaine, c'est-à-dire personnage fermé aux autres. Bon, lié à ce qui s'est passé, ça peut se comprendre, mais qu'il nous fasse une sorte de, comment dire, de strong woman, tu sais, la fille fermée qui dit rien. La transformation était trop directe. Peut-être un peu plus tard dans la série, ça aurait été sympa, mais là, on commence à s'habituer à elle. Et directement, dès l'épisode 3, ça change. C'était un peu particulier. Après, sinon, j'ai son personnage, c'est-à-dire son passé, Bellantric qu'il va y avoir justement avec Sarek, donc qu'il a formé, ce lien aussi qu'il a au niveau de la, je sais pas comment appeler ça, un lien télépathique, les échanges qu'ils ont. Et non, je trouve qu'elle passe très bien. Je trouve qu'elle passe très bien, voilà. C'est-à-dire, tu vois, même pour cet épisode, j'ai pas pris plus de notes, j'ai pas noté plus de choses, mais j'ai été vraiment spectateur de l'épisode. C'est passé comme j'ai pas forcément de critères ou d'indications à donner pour Michael. C'est bien.
Ok. Et toi, Charles?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai bien compris en fait le changement justement du personnage, parce qu'on sent qu'elle a vraiment été persécutée en fait. Entre le deuxième et le troisième épisode, tu sens que on n'a pas arrêté de lui reprocher, et c'est pour ça qu'elle s'est fermée. Donc ça, moi, je l'ai bien compris. Après, je trouve qu'elle a un charisme quand même assez impressionnant. Ouais, voilà, j'ai à peu près tout dit.
Vous aviez regardé comment ça s'appelle, The Walking Dead?
Yes. Et ah,
ça,
ben oui, c'est elle.
Ça vous a pas, ouais, ça vous a pas trop choqué, surpris?
Non.
Non, c'était pour savoir, c'est parce plus que moi, ça m'a pas du tout dérangé. Mais...
c'est plus le capitaine du Discovery, là, de me rappeler où j'ai pu
oui,
le voir.
Et Michelle Yeoh, elle a fait plein de films, énormément.
Alors, l'autre capitaine, hein, l'homme.
Ah, Lorca. Ouais. J'ai pas d'exemple, là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très connu.
Il a un faciès, en tout cas, il a une gueule.
Il a joué dans Harry Potter, c'était le père de... du petit blond merdeux, là.
Ah oui!
Oh, putain. Ah putain! Ah oui!
Ah oui!
Dringo, ah, mais je crois que c'est pour ça qu'en fait on le déteste intérieurement à cause de ça.
Chez Sam Isaac.
Est-ce qu'il y a un autre personnage? Saru, peut-être? Vous avez quelque chose à dire dessus?
Saru, c'est, rappelle-moi.
C'est l'extraterrestre, le Kelpien?
Ah oui! Oui, oui, celui-là qui ressent l'énergie, c'est ça? Enfin, qui ressent les émotions.
Qui ressent la mort.
Ouais, la mort, c'est ça. Non, lui, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Il est un peu chiant, mais je pense que c'est volontaire.
C'est vrai qu'il est, moins, tu l'apprécies moins par rapport, même à une des saisons précédentes, le médecin numérique. Tu sais, ça, il est intéressant, mais trop terre à terre. Là, t'as bien fait, là, t'as pas bien fait. Est-ce que ça change après? Moi, j'ai trouvé... bon. Mouais. Mouais.
Mouais.
Mais,
voilà. Par contre, un personnage que j'ai adoré, c'est Philippa.
Ouais.
Oui.
Ouais, elle est vraiment très Starfleet, elle.
Elle est géniale.
Non, personnellement, moi, c'est Tilly qui m'a le plus accroché.
Voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que j'allais dire la même chose.
De quoi, Tilly?
Elle représente pas mal le fan, je pense. Elle nous représente un peu, là, comme... Je pense que c'est un peu ce que... ce que Wesley Crusher aurait dû être. D'être quelqu'un de jeune, mais pas trop jeune, qui est encore fasciné par le monde, mais qui résout pas tous les problèmes de l'univers en un claquement de doigts parce que c'est un génie, là, tu sais. On voit que tu sais elle a beaucoup de connaissances mais très peu d'expérience de vécu. Elle le représente très bien dans la façon dont l'actrice la joue là. Je pense qu'elle représente là, tout l'espoir de ce que l'univers va être et peut devenir par la suite là. Suite au conflit là, avec les Klingons, on va dire là.
Ouais, moi j'aime énormément Tilly et je pense qu'on fait partie des rares. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, Renaud et Charles, mais c'est vraiment un personnage positif qui apporte du souffle. Ça fait du bien de la voir. Et ouais, moi je me suis plus j'ai plus eu de relation avec Tilly qu'avec Michael au début.
Je n'ai pas du tout aimé ce personnage.
Voilà, je m'en doutais que c'est très compliqué. Il est très positif. Hein.
Ouais, tu sens que c'est pas forcément un running gag, mais tu sens que voilà, c'est pour par rapport au personnage de Michael, un peu redescendre aussi le côté dramatique, mais c'est dur.
Mon épouse la déteste.
Ah, merci.
Alors moi, je l'ai détesté dans les premiers épisodes. C'est par la suite que j'ai commencé à l'apprécier.
Ouais, au suivant de la série. Ouais. Avec le bon vieux... That's fucking awesome.
Elle est horrible, t'as envie de la frapper.
Ouais, voilà, pareil, de ce que j'en ai vu sur les forums, c'est un personnage qui est vraiment pas apprécié, et pour le coup, j'ai même lu des personnes dire « j'espère que c'est elle le prochain ». Parce que vous avez compris que le taux de décès dans la série va être assez élevé, on est plus proche d'un Game of Thrones que d'un Star Trek habituel. Et j'ai vu plein de monde dire « j'espère que c'est elle le prochain personnage à mourir », et je trouve ça dommage. Parce que voilà, elle apporte ce naïvisme, surtout
ça veut dire que les gens n'ont rien compris. Parce que dans Game of Thrones, les personnages les plus détestables, c'est les derniers à crever.
Oui, voilà, oui. <ça va. rire> cette petite pensée saucisse que je viens d'avoir. Enfin, bref.
Saucisse.
Oui, non. Quelque chose à rajouter sur Discovery?
Non, moi je trouve que c'est une très bonne série avec ses défauts, mais un bon démarrage.
Une série peut-être intéressante de peut-être plus partir sur un Enterprise pour débuter, ouais. Puis ensuite partir sur Discovery. Ouais.
Pour une découverte de l'univers.
Une production tumultueuse, mais qui a quand même donné des bons résultats malgré... Toute l'action qui puisse passer derrière la scène avec le départ de Brian Fuller, entre autres, là, et les attentes trop élevées des Trekkies. Je pense qu'on a quelque chose, on a une fondation solide. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient par la suite.
Et puis, de toute façon, il y a quelque chose que je pense profondément. Toutes les premières saisons, sauf celle de la série originale, toutes les premières saisons sont franchement pas les meilleurs, et il y a vraiment de très mauvais épisodes, même dans toutes les séries de toutes les premières saisons. Et donc voilà, je pense qu'il faut être patient. Et je suis content que ça vous plaise, les cadets, parce que j'avais peur que vous n'ayez pas envie de la voir, cette série, parce que trop sombre, trop violente. C'est quelque chose qui sera amélioré au fur et à mesure du temps, et il faut que la série trouve son rythme, son public également, et je sais pas. Moi, je suis assez positif sur Discovery.
Après, le fait que tu nous aies payé aussi pour regarder les épisodes.
Voilà, très cher.
Vous aurez
j'attends toujours mon chèque, en fait.
Je paye en godasse.
C'est pour ça que tu pourras nous payer avec l'argent des abonnés, donc n'hésitez pas.
Voilà, donner de l'argent à Parlons Trek qui nous...
Mais non, ouais. Moi, faut que je paye mon voyage à Las Vegas, fait que ça va passer là en premier.
C'est bientôt.
Ouais, j'ai hâte.
Ouais. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Je pense pas.
Je pense qu'on a dit le principal, hein.
J'ai deux questions à vous poser. Bon, la première, c'était quel a été votre épisode favori, mais vous l'avez dit, donc si j'ai bien compris, Charles, tu as beaucoup aimé l'épisode de Deep Space Nine.
Oui, voilà, t'as tout compris. Non, je reste poli.
Va voir chez les Klingons si j'y suis. Ah non, j'avais une question, JP. Je sais que tu parles un petit peu le Klingon, et qu'est-ce que tu as... ou que tu comprends du moins. J'ai beaucoup aimé la nouvelle version du phrasé Klingon de Discovery, mais est-ce que ça reste du Klingon ou est-ce qu'ils ont modifié vraiment?
C'est le vrai Klingon. S'il sonne différent, je pense que c'est probablement parce que les coachs ce qu'on appelle en anglais les coachs de dialecte, probablement changé entre les années aussi. Puis je pense qu'il y avait aussi des gros dentiers dans les bouches des Klingons, ce qui sonnait, ça donnait une sonorité un petit peu différente. Mais au niveau orthographe, c'est le même Klingon. Il n'y a aucune différence. Les gens qui sont du Klingon Language Institute étaient attachés à ça. C'était d'ailleurs une personne canadienne. C'était une Canadienne qui avait coaché là, justement les... qui avait traduit des trucs en Klingon là, pour le bien de l'épisode. Et qui avait montré aux acteurs comment parler Klingon. Et aussi, je tiens à mentionner que vous, en Europe, vous avez, puisque c'est sur Netflix, vous avez droit à des sous-titres en Klingon.
Oui, j'ai essayé de les lancer, mais vu que je ne parle pas du tout Klingon. À part dire Petak.
Cette traduction-là, donc ces sous-titres-là, viennent du, si je me rappelle bien, de Levin L. Littire, donc qui est le Klingon, qui est connu comme le Klingon Teacher. C'est un Allemand, parce que, bon, juste les Allemands qui parlent Klingon fluemment, ça a de l'air, là. mais non, en effet, c'est lui qui a fait les sous-titres pour les épisodes.
D'accord. Je savais pas. Mais vous, toi, au Québec, tu n'as pas les sous-titres en Klingon.
Non, parce que tu vois, nous, au Canada, malheureusement, malheureusement, whatever.
Il n'y a pas l'électricité.
Je t'emmerde. Non, c'est que Star Trek était diffusé à la télévision. C'était le seul pays au monde où Discovery était présenté à la télévision parce que la compagnie Bell Media a signé un contrat pour les droits de Star Trek au Canada. Donc, Bell Media possédant la chaîne Z en français et Space en anglais. Donc, c'était diffusé sur ces chaînes-là. Et le lundi suivant, c'était sur le service de streaming Crave TV. Et ce service de streaming-là est pas super. Ils ont du bon contenu, mais au niveau de l'interface et tout ça, il y a aucun choix de langue. Les sous-titres sont basiques. Il y a juste l'anglais. Donc, c'est une plateforme anglophone. Donc, très limitée. Donc, non, on n'a pas les...
Donc, je ne savais pas. C'est très surprenant. C'est dommage un peu. Je savais pas. Ok. Bon, les cadets, est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que maintenant que vous avez eu un court aperçu, vous avez toujours envie de vous plonger dans cet univers magnifique et vaste qu'est Star Trek?
Non, j'ai pas reçu mon chèque.
Écoute, on va s'arranger hors micro.
Donc oui, bien sûr, bien sûr.
Chérie, il est où mon couteau? Ah pardon, mon micro était branché.
Je t'envoie de l'argent canadien.
Et toi, Renaud, ça te plaît toujours? Enfin, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te donne envie?
Oui, après, c'est, comme on a vu, il y en a qui donnent un peu moins. Mais c'est en tout cas, par rapport à ce que j'en ai pu, j'en tire quand même plus du positif, ça c'est sûr, hein, sans problème.
Ok, ben c'est plutôt cool. Je pense qu'on peut conclure. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter.
Je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà pour ce premier épisode.
Très bien. Très chers auditeurs, pour votre part, n'hésitez pas évidemment. On va commencer la phase gimmick qu'on retrouve dans tous les podcasts, dans toutes les émissions radio et télé. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos points de vue, tant sur Star Trek que sur l'émission, qui est, je le rappelle, est un épisode pilote. Donc c'est en pleine préparation. Tout avis est bon à prendre. Vous pouvez nous contacter, que ce soit sur Parlons Trek, sur Facebook, avec je sais plus le nom de la page Facebook, ça y est, je l'ai perdu.
Oh, cette honte.
Le podcast ouais, Star Trek pour les nuls, tout court. Sur YouTube également, podcast Star Trek pour les nuls. C'est un très long nom et très difficile à prononcer. Il faudrait qu'on crée un hashtag. Oui, je suis pas très malin, j'ai pas de bonnes idées. On va se créer un hashtag pour nous contacter sur Twitter avec le hashtag
saucisse.
Saucisse. Non, plutôt le hashtag Noobtrek, un truc comme ça. Allez, Trek nul ou je sais pas. N'hésitez pas. Balancez plein de hashtags, on vous repérera. N'hésitez pas.
On vous aime.
Je sais pas, on les connaît pas encore, hein, nos auditeurs. Je sais pas si on les
aime. Si vous, on n'en aura pas.
Oui, bah écoute, c'est un risque à prendre.
Maman, si tu nous écoutes, merci.
Oui, nos mamans vont toutes nous écouter, je pense, j'espère. Je sais pas, il faudrait que je trouve aussi une phrase de fin. J'espère que vous aurez une vie longue et prospère, hein. C'est pas mal ça. Allez,
c'est pas mal.
À très bientôt. Original. Pour les suites de nos aventures. Bisous, salut en V et à bientôt.
Ciao. Que la force soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Allez, ciao à tous.
Star Trek pour les nuls. putain, il faut vraiment que je fasse un autre générique.